Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission On en jase du mercredi 15 octobre. Émission spéciale avec un Jeff Fortin tout seul dans le studio puis une Antonine Iaccarini qui est à Montréal, branchée dans notre studio de Montréal. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que le 2 novembre prochain, spécial élection municipale, 19h30, sur les ondes de Boulevard et du 99.5 Montréal, en simultané avec notre collègue Alex Laramé. Comme on l'avait fait pour les élections fédérales, qui va nous parler des résultats dans la grande région de Montréal, des excellentes analyses d'Antonine Iaccarini, Farnell Morisset, Max Larouche aux résultats, Mathias Turcotte sur le terrain, sûrement Pascal CV, qui revient demain, soit dit en passant, de son trip au Kilimanjaro. On va faire le tour de cette expérience splendide. Midi 1 à l'heure actuelle sur Québec, 11 degrés avec 30% de possibilité d'averse. Demain, c'est 12 degrés alternance de soleil et nuages et 13 degrés ensoleillés pour vendredi. On va immédiatement la rejoindre en direct de Montréal. Antonine Iaccarini, comment vas-tu?
Ça va bien. Toi, Jeff?
Hey, ça va super bien. Puis, on a des beaux studios à Montréal, tu me disais?
Oui, ça a bien de l'allure, honnêtement. Des installations qui ont bien du charme industriel. J'aime bien, mais tu sais que je préfère Québec.
Ben oui, c'est clair. Québec est tellement une belle ville. Ça n'a aucun sens. Je l'ai encore plus vu en fin de semaine quand j'étais dans le Vieux-Québec avec les croisières. J'ai vu le Queen Mary quitter le port de Québec. Un spectacle tout simplement incroyable.
Oui, il n'y a rien qui bat Québec.
Non, il n'y a rien qui bat Québec. Anto, on va se lancer directement dans le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
On n'a pas le choix de se lancer tout de suite dans le caucus Iaccarini parce qu'Anto, si on dit que Québec est une belle ville, ça brasse en politique municipale, pas à peu près à Québec. Coup de théâtre hier. Est-ce que respect citoyen est légal ou illégal? On est entré en discussion avec le Parti Leadership Québec. On a regardé ce que Sam Hamad aimerait faire s'il était plus le chef, puis que c'était Stéphane Lachance, le chef de ces deux partis-là. Et là, c'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que c'est légal ou illégal? On commence avec Marc Roussin, le directeur de campagne de respect citoyen en ondes à Radio-Canada. Hier en après-midi, qui explique quelle a été la démarche de respect citoyen.
Alors nous, ce qui était important, c'était de mettre toutes les options sur la table, faire une ultime tentative, puis c'est aussi simple que ça.
Mais si je comprends bien, vous étiez prêt à lui offrir le poste de directeur général de la Ville de Québec, mais ça, c'est en rupture avec les règles électorales, M. Roussin, ça.
On était prêt à offrir n'importe quoi qui est réalisable, qui est faisable, qui est légal. Aussi simple que ça. Alors, name it, en bon français, excusez-moi l'expression.
Mais on l'a vu à Saguenay, donc la mairesse qui a été condamnée pour des propos comme ceux-là. Donc, c'est interdit de faire ça, M. Roussin?
Ben oui et non. C'est interdit parce que la mairesse, elle était sortante, elle était élue, elle était en poste. Nous, ce qu'on tente de faire, c'est une alliance. Alors, présentement, on n'est pas élu. On ne peut pas offrir de job. Ce qu'on peut faire, c'est on peut dire, écoute, dis-moi ce que ça prend. Si c'est faisable, je vais m'assurer d'être capable de te le donner, si on est capable. Alors ça, c'est totalement légal. Okay. On n'est pas élu. Alors, comme on n'est pas élu, on ne peut pas offrir.
Antonine Iaccarini, t'en penses quoi? C'est-tu vraiment légal d'approcher? Parce que là, on fait la différence entre Saguenay. Saguenay, la mairesse Julie Dufour a été reconnue coupable, elle, durant la course à la mairie 2021, alors qu'elle sortait d'un mandat de conseillère municipale, elle a dit au monde, « Hey, écoute, tasse-toi de la course, puis je vais t'offrir tel job. » Là, du côté de respect citoyen, on n'a pas dit textuellement à Sam Hamad, « On va te mettre des jeux de la ville. » Mais on y a quand même dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon Sam, pour quitter justement la campagne électorale?
Écoute, on est dans un enjeu éthique. On n'est pas des avocats, ni toi ni moi. C'est illégal, selon la loi électorale, pour un candidat à la mairie ou que ce soit un candidat ou comme conseiller municipal, de promettre un poste dans l'administration municipale en échange d'un retrait de la course électorale. Okay? C'est quelque chose qui flirte avec la corruption. Même. Et puis, le cas de Mme Dufour à Saguenay est patent. Là. Elle a été reconnue coupable. Elle fait appel, mais elle a reçu une amende et elle risque de perdre son droit de se présenter. Si elle n'avait pas fait appel, elle ne serait pas candidate aux élections municipales mm-hmm. présentement. Donc, le DGE a le pouvoir de déclencher une enquête sur cette situation-là. On ne peut pas présumer de la fin de l'enquête, là, évidemment. Là, on a des détails aussi qui nous sortent par médias. Il a dit ça, il m'a répondu ça. On n'a pas nécessairement là, tout... on n'était pas dans la pièce, bref, quand ça s'est passé. Mais ça regarde très mal, là.
C'est ton opinion, c'est que ça regarde très mal. Et d'ailleurs, on a des excellents journalistes au niveau de la couverture des élections municipales et de la politique municipale en général à Québec. Une d'elles est Émilie Pelletier du Soleil. C'est elle la première à avoir sorti la nouvelle sur le fait que Marc Roussin avait justement tâté le pouls auprès de Leadership Québec. Elle a parlé avec une représentante du DGE et voici ce qu'elle nous a résumé ce matin dans Marceau le matin.
Donc, lors de mes discussions hier avec une représentante du directeur général des élections du Québec, ce qu'on en a déduit, c'est que le simple fait d'avoir des tractations en ce sens et de tenter de convaincre et de dissuader une personne de retirer sa candidature ou de ne pas la présenter, en ce sens-là, c'est illégal.
À 12h30, on aura François-David Bernier, avocat spécialiste, qui va venir justement nous entretenir, à savoir, puis on va lui poser la question, est-ce illégal ou non au sens de la loi? Mais là, Antonine, quand on parle de l'entonnoir qui se resserre avec ce qu'Émilie nous rapporte de sa discussion avec une représentante du DGE, ça augure vraiment pas bien dans le futur là, pour le Parti politique Respect citoyen.
Non, ils sont dans l'eau chaude. Stéphane Lachance, lui, dit que c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est pas une tempête dans un verre d'eau, surtout en pleine campagne électorale où on n'aura pas nécessairement les conclusions d'une future, peut-être, enquête du DGE. Ce qu'on a, c'est la situation qui nous est rapportée, qui est quand même crédible, et on a leur réaction à ce parti politique qui, finalement, essaie de minimiser la situation. Donc, ça aussi, ça envoie un message. Je dis, ben non, c'est pas grave, là, parce qu'on n'était pas, pas encore candidat. C'est pas la même situation qu'à Saguenay. Mm-hmm. Moi, je trouve que ce que ça vient dire aux gens, c'est le niveau d'éthique de ces personnes-là. Parce que je veux quand même dire, là, le poste de directeur général d'une municipalité grande comme Québec, c'est un poste qui est stratégique. C'est comme... Je fais attention à ce que je dis, mais...
J'aime tellement où tu vas.
C'est d'offrir un avantage. Bien, tu le sais où est-ce que je m'en vais, mais c'est d'offrir un avantage important. Et par-dessus le marché, je veux dire qu'en ce moment, le poste est occupé par quelqu'un de compétent. Et là, on fait des promesses en échange, en fait, d'un avantage politique de faire en sorte qu'un adversaire politique va se tasser. Donc, on n'est pas en train de choisir une personne dans ce poste stratégique-là selon ses compétences. On est en train de choisir une personne selon notre intérêt politique. Ça envoie un bien mauvais message dans une campagne municipale.
Ouais,
j'ai envie de te dire aussi, Jeff, que pour Bruno Marchand, en ce moment, là, c'est du pain béni, là, tout ça, là. Pendant que ça se coltaille avec les deux autres partis anti-tramway, lui, je veux dire, il est assis dans son bureau, puis il doit être mort de rire présentement.
Il a fait une conférence de presse ce matin pour une annonce et tractation entre Lachance et Hamad du copinage entre petits amis et les invite à rendre publiques les discussions qu'ils ont eues. Donc, en effet, Bruno Marchand peut juste tirer avantage de la situation, là.
Bien, absolument. Le seul désavantage que je vois présentement pour Bruno Marchand, c'est que évidemment on parle d'affaires croustillantes, puis pendant ce temps-là, on ne parle pas nécessairement des annonces qui sont faites par les différents partis politiques. C'est pas toujours au service du citoyen. Par contre, c'est pas vrai que c'est juste un détail, que c'est juste une tempête dans un verre d'eau, parce que oui, dans une campagne électorale, les propositions, c'est important, la vision qu'on amène, mais aussi ton éthique de travail, la manière, l'approche avec laquelle tu vas travailler, bien ça aussi, les citoyens vont être intéressés à en connaître davantage. Puis là, en ce moment, cette espèce de saga entre Sam Hamad et Stéphane Lachance, bien, c'est en train de construire aussi une image sur cette approche-là de ces deux personnes-là qui souhaiteraient, en fait, qu'ils disent à l'autre de se tasser de leur chemin, là, puis que c'est à l'autre de finalement s'en aller, et d'un des partis qui offre des postes stratégiques en échange du retrait de l'autre personne. Je m'excuse, c'est pas un détail, c'est pas quelque chose qui devrait être évacué de la campagne électorale. Il faut en parler, puis quand j'entends le parti essayer de minimiser les gestes, ben, ça envoie un bien mauvais message.
Non, exactement. Puis, tu fais bien de le mentionner. C'est vraiment pas un détail. D'ailleurs, deux choses par rapport à ça, par rapport à ton propos qui correspond exactement à mon schéma de pensée. La chose concernant le DG de la ville, Luc Monti, fait un travail exceptionnel. Il a pris le cadre financier de la Ville de Québec. Il est en train de réduire la dette exactement dans les cibles dont ça avait été ciblé par Régis Labeaume. Il a même fait plus rapidement à l'heure actuelle. Il gère de main de maître le budget de la Ville de Québec. Puis là, je sais que quand les gens, je dis ça des fois, il y a des gens qui font « Ben voyons donc, il y a du gras à couper à la Ville de Québec. » À la Ville de Québec, on a la note 3A de la firme indépendante Moody concernant nos finances publiques. Donc, il fait un travail impeccable. Fait qu'en quoi je vais remplacer Luc Monti si je suis Stéphane Lachance qui arrive à la mairie de Québec?
Mais c'est ça, c'est pas gagnant. Puis ça rejoint quelque chose que tu amènes souvent quand on parle des attaques envers l'administration actuelle. Puis tu dis, on n'attaque pas sur les bonnes choses. Bien, s'attaquer à ce poste-là puis dire, on va tasser Luc Monti, honnêtement, c'est pas gagnant. Effectivement, c'est une des choses qui va bien en ce moment dans la municipalité avec cette agence Moody's qui a donné une bonne note. C'est inattaquable.
Exactement.
Donc, tout ça envoie tellement un mauvais message présentement. Je suis pas certaine qu'il va y avoir un autre sondage d'ici d'ici le scrutin.
Oui, normalement, Somme le Soleil devrait en faire un autre.
Bon, ben moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir donné, cette espèce là, de discussion dans l'espace public entre sa maman et Stéphane Lachance, avec tous les détails qui sortent par-ci, par-là, entourant ces discussions-là. J'ai pas l'impression que quand tu es citoyen et que tu suis ça là, à peu près, là, en écoutant les nouvelles par-ci, par-là, que tu trouves que c'est très glorieux ou très gagnant. Et puis en plus, ça met encore plus l'emphase sur la division du vote entre les deux. Parce que tu sais, le but, dans le fond, de Stéphane Lachance et de sa maman, c'est de se positionner comme étant le challenger de Bruno Marchand. Mm-hmm. Mais présentement, ça met juste l'emphase sur le fait qu'ils se challengent l'un l'autre. Puis Bruno Marchand est comme sur une autoroute de l'autre côté. Je vous dis pas que ça va être facile, qu'il va gagner facilement ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que, par exemple, cette semaine, je trouve qu'il a le champ libre pendant qu'on parle juste de c'est qui a le plus gros égo entre les deux, puis c'est lequel qui va se laisser la place à l'autre dans les opposants de Bruno Marchand.
Hey, clairement, 418-971-1021, vous étiez des gens qui allaient voter pour Respect citoyen ou pour Sam Hamad. Est-ce que vous êtes redevenus dans le camp des indécis ou est-ce que vous persistez et signez avec ce qui se produit à l'heure actuelle? Antonine aussi, est-ce que c'est cette fameuse folie anti-tramway. Puis là, j'ai pris le terme folie, là, c'est peut-être pas le bon terme, là. Ça serait plus cette emphase-là anti-tramway qui a amené Respect citoyen à faire l'impensable. Et je m'explique. T'sais, normalement, là, dans une campagne électorale, c'est la démocratie qui a plein de partis politiques qui se présentent. Soit le meilleur, puis bolet. Pourquoi tu essaies de faire une alliance?
Ouais, c'est sûr que quand on regarde le dernier sondage, tu comprends pourquoi ils veulent faire une alliance. C'est qu'il y a vraiment la chance de battre Bruno Marchand. Puis c'est vrai que le tramway, c'est un dossier important puis que c'est probablement celui sur lequel on met de l'emphase. Et il y a toutes sortes de différences aussi entre le programme de Respect citoyen et celui de Leadership.
Ben oui. Tu sais, quand on parle du tramway ici, là, on a une auditrice ou un auditeur qui nous écrit « Hey, moi, j'aurais aimé ça qu'on fasse une élection référendaire sur le tramway. » Oui, parfait. En effet, ça pouvait n'être une s'il y aurait eu seulement un candidat contre Bruno Marchand. Là, il y en a deux. Est-ce qu'on peut le voir de cette façon-là? J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus.
Non, puis c'est vrai, quand on va regarder les résultats le 2 novembre prochain, si on voit que plus de votes additionnés des partis anti-tramway, ça va quand même envoyer un message qui va être complexe pour le maire. Bon, oui. Pour l'instant, sa priorité à Bruno Marchand, c'est de se faire élire. Après, tu gères les problèmes par la suite, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un projet sur lequel on met tellement d'emphase, un dossier sur lequel on met tellement d'emphase dans cette campagne électorale. On l'a vu pendant les débats aussi, là, tu sais, que ça prenait limite un peu trop de place puis que ça faisait de l'ombrage au reste. Mais c'est pas suffisant pour que deux équipes mettre de côté tout le reste de leur positionnement qui sont différents. D'ailleurs, tu sais, sa maman, il disait, moi, je regarde le programme de Stéphane Lachance, puis je me dis, c'est irréaliste ce qu'il est en train de proposer. Fait que j'adhère pas à ça. Puis de son côté, Stéphane Lachance, il a toute une plateforme à laquelle sa maman n'adhère pas et à laquelle il tient. Là. Il n'y a pas juste le tramway. Donc, est-ce que c'est vraiment suffisant? Puis finalement, on perd des journées pour ces deux candidats-là à parler de pourquoi puis de comment, puis qu'on aurait-tu dû faire une fusion, puis peut-être que mais c'est l'autre qui devrait. Puis pendant ce temps-là, ben on place pas les autres messages. On parle de nous, on parle pas des citoyens pendant ce temps-là. Alors ça, c'est une erreur. Souvent, les partis qui sont dans des situations difficiles, ils parlent d'eux-mêmes. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est souhaitable dans une campagne électorale, parce que les gens veulent savoir qu'est-ce que vous allez faire pour moi.
Oui. T'as raison. Qu'est-ce que vous allez faire de différent aussi? En effet, je termine cette discussion avec justement un extrait de Stéphane Lachance avec nous ce matin, dans Marceau le matin.
Stéphane, mais ce qu'on a fait, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on a fait. On a discuté, les deux directeurs ont discuté dans une rencontre privée, entre deux hommes, vocalement, il n'y a rien, il n'y a pas eu d'offre écrite, il n'y a eu rien. C'est une rencontre où on a discuté, on a parlé de différents points, puis ça a chopé, on a fermé le livre, puis c'est réglé. Donc, il n'y a rien d'illégal dans tout ça.
Antonine, tu es une spécialiste en communication. Est-ce que tu aurais prôné un discours comme ça de la part de Stéphane Lachance ou tu aurais fait les choses différemment?
Bien, c'est que en communication politique, tu as beau mettre du rouge à lèvres à un cochon, ça reste un cochon. Okay? Quand sur le fond des choses, c'est pas bon, peu importe comment tu vas le communiquer, ce sera pas bon. Je m'excuse, mais tout ce qui concerne d'aller contre la loi électorale et ce qui concerne, je vais aller un peu plus loin, la corruption en général, tu n'as pas besoin de mettre les choses par écrit pour que ce soit illégal. J'ai très hâte d'entendre Maître Bernier nous entretenir là-dessus. Ça ne change rien. Mais là, ce qui se passe, c'est que Stéphane Lachance est dans une situation où, idéalement, il faudrait que tu dises, écoutez, effectivement, c'est pas correct. Puis, il y a eu des discussions, puis je suis pas d'accord avec ça, puis j'aimerais ça qu'on passe à autre chose, puis que ça n'arrivera pas, tu sais. Mais il faut reconnaître que c'est pas correct. Mais là, il peut pas faire ça en pleine campagne électorale, puis surtout, il pourrait pas garder M. Roussin au sein de son équipe dans cette situation-là. Donc, il fait le choix, qui n'est vraiment pas l'idéal non plus, mais il n'y en a pas de choix idéal, d'essayer de minimiser la situation puis de gagner du temps parce qu'il n'y aura pas de conclusion. Dans le fond, ce qu'on pourrait apprendre d'ici le scrutin, c'est que les DGE déclenchent une enquête. Des fois, puis je ne suis pas dans la tête de cette institution qui est vraiment indépendante, mais ça peut arriver qu'on décide d'attendre après une campagne électorale aussi pour déclencher une enquête, pour ne pas s'ingérer dans une campagne électorale. Mais ça n'arrive pas tout le temps, parce que la commissaire, la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale, elle, à part ses enquêtes, peu importe ce qui se passe, ça se passe pendant une élection partielle, c'est tant pis, c'est comme ça. Et c'est bien correct. Mais je ne sais pas si le DGE pourra annoncer, par exemple, qu'on déclenche une enquête pendant la campagne électorale. Donc, le jeu de Stéphane Lachance, c'est de dire non, c'est pas grave, puis de marteler ce message-là en attendant que le scrutin arrive, en espérant que les choses se tassent. Mais les opposants politiques ne vont pas le laisser s'enfuir avec ce ballon-là. Là. Ils vont l'attaquer constamment jusqu'à la fin de la campagne et il risque d'avoir un coup politique à tout ça.
Bien, c'est clair. Il y a débat d'ailleurs à l'Université Laval demain soir, donc je m'attends à des attaques là-dessus là, de la part de Bruno Marchand et Claude Villeneuve. Il n'y a pas de doute là-dessus. Continuez à nous texter 418-971-1021. Est-ce que si vous votiez respect citoyen ou même je vais mettre Leadership Québec là-dedans, même si la proposition est plus venue de respect citoyen, votre vote a-t-il changé? Je vous dirais que ce matin, il y a eu beaucoup de messages plus négatifs à l'endroit de Stéphane Lachance. Ce midi, présentement, c'est plus posé. Alors, est-ce que justement le temps va arranger les choses pour respect citoyen? On verra bien. Antonine, je te fais écouter François Legault, qui était tellement fier pète il y a de cela quelques mois.
On va continuer de ne pas augmenter le tarif résidentiel de plus que 3 %. On va pouvoir décarboner le Québec pour pouvoir créer des bons emplois bien payés avec des entreprises de chez nous. Je suis content d'être à St. John's, à Terre-Neuve, pour annoncer une immense entente avec Terre-Neuve pour avoir de l'électricité pour les 50 prochaines années. On augmente de 50 % la capacité qu'on recevait déjà de Terre-Neuve à un prix très bas. Là, on parle de 6 cents. Ça nous fait économiser à peu près 200 milliards si on compare avec les autres projets qu'on a au Québec. Donc, c'est une grande journée pour le Québec. C'est une entente historique qui va permettre aux prochaines générations, bien, un, de compter sur de l'électricité à un prix qui est très bas. Donc, on va continuer de ne pas augmenter le tarif résidentiel de plus que 3 %. On va pouvoir décarboner le Québec. On va pouvoir créer des bons emplois bien payés avec des entreprises de chez nous, dans l'économie verte. Là. Donc, je suis vraiment très content de cette entente-là.
La petite musique, Antonine.
Hey, bravo.
On est content, on fait un bon montage, la vie est belle, on a une bonne entente, on y va. On va vous garder ça à 3 % les amis, au résidentiel, les augmentations d'électricité, même si on a un projet de développement de 150 milliards. Mais là, il y a une élection à Terre-Neuve, puis c'est le gouvernement conservateur qui est entré. Et là, ça peut remettre les choses en question parce que Tony Wakeman, le chef conservateur et le nouveau premier ministre de Terre-Neuve, il est majoritaire, une courte majorité à 21 députés. Il y en a 40 là-bas. Et l'entente de 225 milliards sur 50 ans sera révisée selon lui. Il veut faire appel à des firmes indépendantes. Est-ce qu'on est dans le trouble au Québec avec notre électricité?
Bon, écoute, le gouvernement demeure confiant parce que cette entente de principe là, qui a été signée il y a quelques mois entre l'ancien premier ministre Andrew Furey et M. Legault est remise en question par les conservateurs. Et c'est drôle puisque tu disais, ils ont gagné avec 21 sièges une élection. Ouais. C'est fou, hein? Comment c'est une petite assemblée. Puis on
ben oui.
Pas tout le temps. En fait, on connaît très peu Terre-Neuve. C'est rare hein, qu'on
parle
de Terre-Neuve.
Mais tu as tellement raison.
Les jeunes, on faisait des blagues de Newfie, là, mais tu sais, je veux dire, je savais même pas que les Newfies, c'était les gens de Terre-Neuve dans l'imaginaire.
Mais on coule pas, moi aussi.
Donc, on les connaît très peu. Puis c'est pas la politique de Terre-Neuve, Labrador, on la suit très peu. Mais avec cette entente, évidemment, là, hier, on était plusieurs à suivre ça avec attention parce que c'est une entente qui est importante. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup de notre Québec la colère, l'amertume, la frustration des gens de Terre-Neuve-Labrador concernant l'ancien deal qui est toujours en vigueur présentement de Churchill Falls. Ils ont l'impression de s'être fait flouer pendant des années, de s'être fait imposer ça. Et c'est ce qui a permis aux conservateurs de Tony Wakeham de surfer sur cette colère-là et de promettre qu'on va, comme tu disais, faire une autre analyse, une analyse indépendante de cette entente-là, et qu'on pourrait même soumettre l'entente à un référendum. Hey, c'est drôle, hein? Il y a comme trois gros référendums là, sur le radar au Canada. Là. Il y a
vraiment.
Il y a le Québec.
Et là, il y a l'entente et... Churchill Falls.
Hey, on est là, dans le référendum friendly,
c'est fou.
Là, en ce moment.
Parce que là, François Legault écrit il y a de cela 30 minutes sur son compte X. Félicitations à Tony Wakeman pour son élection. Je suis convaincu que l'entente de principe sur le développement énergétique du Labrador est bénéfique tant pour Terre-Neuve et Labrador que pour le Québec. Donc, il tente déjà là, de tisser des ponts là, avec le nouveau premier ministre là-bas.
Il reste positif. Et c'est la chose à faire, je pense, politiquement, parce que, de toute façon, sur le fond des choses, si on regarde froidement la situation à Terre-Neuve-Labrador, tu te demandes sérieusement pourquoi ils cracheraient sur une entente comme ça, qui est une entente qui est beaucoup mieux que celle qui prévalait précédemment, qu'on considère qui est gagnant-gagnant, qui avait été saluée. Là, quand ça a été annoncé, cette entente-là, là, la plupart des experts en énergie disaient que c'est un bon deal. Ils vont aller chercher beaucoup plus d'argent avec ça. Et de notre côté, on a besoin de cette énergie-là dans le plan stratégique d'Hydro-Québec et aussi la vision économique du gouvernement de manière générale. On sait que Hydro-Québec puis l'énergie, c'est au centre de cette vision économique du gouvernement. Et on sait à quel point François Legault a besoin d'avoir des bons coups, des gains, des bonnes nouvelles et que ça fait partie du legs qu'il veut laisser. Donc, est-ce que finalement, à Terre-Neuve, ça va avoir été surtout du brassage politique puis dans le fond, ça risque d'atterrir de manière assez satisfaisante pour le Québec? C'est possible, mais c'est sûr qu'il y a de l'ombre au tableau. Il y a des rumeurs aussi qui disent que le fédéral pourrait s'en mêler à un moment donné parce que dans cette nouvelle entente-là, on veut développer aussi l'énergie à Gull Islands et que c'est considéré comme un projet d'intérêt national là, du côté du fédéral. Donc, ça serait possible que le gouvernement fédéral dise « Bon, écoutez, Terre-Neuve, on va vous donner un petit nanane supplémentaire. Mm-hmm. » Mais vous nous signez ça, s'il vous plaît, là, puis on passe à un autre appel.
Ben, Crémanteau, est-ce que le Canada va venir sauver le Québec dans son développement énergétique?
Ben peut-être, parce qu'on a des intérêts concomitants en ce moment.
Oui, c'est
avec
ça, exactement.
Ce n'est pas pour rien, en passant, que François Legault, il ne l'attaque pas jamais, là, M. Carney.
Non, en effet.
L'aimer. Il s'accroche après la locomotive fédérale en ce moment parce mm-hmm. qu'il veut profiter du fait qu'on veut pousser des grands projets, on veut faire du développement économique, diversifier les marchés. Bien, c'est tous des intérêts qu'on a en commun en ce moment avec Ottawa. Donc, on va voir si M. Carney va finir par s'en mêler. Mais c'est vrai qu'un référendum, ce serait, je veux dire, ça serait une grosse affaire là, quand même pour, avec les 500 000 personnes qui habitent à Terre-Neuve, d'être consultées sur cette entente-là qui est vraiment avantageuse pour eux. Puis, on connaît peu Terre-Neuve, hein, j'en parlais tantôt. Les finances de Terre-Neuve, c'est pas mal désastreux. Là. C'est,
okay.
C'est une province qui ne va pas très bien, des déficits importants, qui a été pratiquement sauvé d'une faillite technique par le fédéral, justement, qui a injecté de l'argent parce que ça n'avait plus aucun sens. Donc, c'est de l'argent dont ils ont besoin.
Donc, ça, c'est gagnant pour nous, par contre, leur côté financier oui. déficitaire.
Bien, l'autre élément, c'est à qui ils vont vendre leur énergie. Si ils ne vendent pas à nous, là, c'est un défi. Là.
Ouais,
que, à suivre, comme on dit.
Ouais, avant qu'on passe à notre dernier sujet du caucus, je veux juste lire un texto de Kim. Ce qui est plate avec la niaiserie de la chance, c'est que c'est tout ce qu'on va entendre d'ici au 2 novembre. Déjà qu'on n'entend pas beaucoup de projets de chaque parti pour la ville de Québec. Eh bien là, on s'assure que ça va être juste des pointes contre la chance ou même, je dirais, Kim, contre plein d'autres candidats également. Là, je regarde le fil Facebook de Bruno Marchand qui a mis sur sa page « Faut que les deux s'expliquent la chance, Ahmad ». Je te dirais qu'il y a des citoyens qui ne sont pas très polis envers l'ex-maire de Québec, là, le maire sortant, devrais-je dire. Alors, oui, c'est vrai, il va falloir passer un débat également d'idées, ce qu'on n'a pas eu là, depuis le début de cette campagne électorale-là. Antonine, coupe dans la fonction publique. François Legault voulait s'attaquer au système qui avait atteint sa limite. Mais là, coudonc, Frédéric Gay, sous-ministre à l'Environnement, d'après moi, il n'a pas reçu le mémo de François Legault parce que le 8 octobre dernier, devant 1000 fonctionnaires, il s'est plaint du fait qu'il doit abolir des postes au ministère de l'Environnement. Quand un de tes sous-ministres fait cette sortie publique-là devant les fonctionnaires, ça va pas bien, là.
Oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas dans un petit meeting avec quatre personnes.
Non, non, ils sont mille, là.
En ce moment,
ils sont mille, puis ils disent « j'ai pas dormi des nuits de temps parce qu'il faut que je coupe des postes, puis ça n'a pas d'allure. » Puis c'est le premier ministre puis le nouveau ministre de l'Environnement qui me demande ça. Fait que regardez, c'est pas de ma faute, faut que je le fasse.
Oui, c'est pas très solidaire, comme on dit. Parce que là, il faut le dire, OK, des sous-ministres, c'est comme le point de jonction entre le politique et l'administratif.
Ouais.
Parce que les sous-ministres, c'est les patrons des ministères. Oui, c'est des fonctionnaires, mais ils sont nommés par le Conseil des ministres. Ils sont sur des sièges éjectables, en passant. Donc, eux, leur rôle est vraiment un peu mitoyen. C'est-à-dire qu'ils sont en charge de faire en sorte que l'appareil gouvernemental se met au service des priorités des gens qui ont été élus, OK, en gros. Donc, moi, qui ai travaillé dans le gouvernement pendant plusieurs années, je peux vous dire qu'un sous-ministre qui fait une affaire de même, ça fait grincer des dents énormément. Parce que d'habitude, ils sont censés quand même mobiliser les gens dans une certaine direction, celle du gouvernement élu. Et en même temps, ils se font le porte-voix de la fonction publique, puis des fois de la logique et de la rationalité dans les cabinets politiques. C'est comme un point de coordination. Mais d'aller dire ce qui a été rapporté, c'est un peu un manque de loyauté, on va dire ça.
Y es-tu sur un siège exécutable, Frédéric Gay, présentement?
Ben, c'est un fonctionnaire qui est apprécié, qui a été vu comme étant compétent dans les dernières années. Fait que, je ne peux pas vous dire là, si il est brûlé ou quoi que ce soit. Là, peut-être que les avantages de passent de loin les inconvénients de continuer de collaborer avec lui. Par contre, ça envoie un message. C'est que, tu sais, je regarde, là, le premier ministre a fait un grand discours d'ouverture, il a dit ses priorités, puis il y avait notamment l'efficacité gouvernementale. On veut couper des postes, on veut accélérer les choses, on veut être plus efficace, on veut enlever le gras. Mais en même temps, c'est quoi l'intérêt des fonctionnaires de se dépêcher de faire ça? Tu sais, tu dis, bon, moi, je travaille dans tel ministère, le gouvernement, il est dans la chenoute, là.
Oh, il sera pas réélu, la CAQ sera pas réélue, là.
Ils seront pas réélus, puis là, on me demande de couper dans mes équipes. Tu sais, honnêtement, oui, ils vont le faire, ils n'ont pas le choix.
Oh, oui.
C'est déjà commencé. On a vu des postes aussi qui ont été coupés dans des sociétés d'État, notamment la SAC. Il y a 800 postes à peu près là, qui ont été coupés cette année dans la fonction publique. C'est pas énorme, mais c'est commencé puis ils n'ont pas le choix. Mais tu sais, sur déployer les priorités gouvernementales, le niveau de motivation ne doit pas toujours être élevé. Je sais que c'est des personnes professionnelles au service des gens et de l'État, les fonctionnaires. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas qu'ils ne travaillent pas bien. Mais au niveau de la motivation, des fois, ça doit être un peu difficile quand on leur dit qu'on veut couper dans leurs équipes. Juste un rappel, la CAQ avait promis de réduire de 5 000 postes dans la fonction publique lors de l'élection de 2018.
En plein ça.
5 000 postes par attrition et par coupe. Et aussi, on voulait envoyer un 5 000 postes dans les régions du Québec. Là. Fait qu'on voulait sortir un peu les postes de fonctionnaires de Québec et les envoyer dans différentes régions. En fait, la taille de l'État depuis 2018, elle a augmenté. On parle d'à peu près 10 000 postes qui sont ajoutés finalement.
Fait qu'on n'a pas enlevé 10 000, on en a ajouté 10 000.
Exactement. Puis, tu sais, il y aurait des justifications, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Mais cela dit, là, cette année, avec la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, le premier ministre veut vraiment donner un coup. Il en a parlé dans son allocution là, de discours d'ouverture ouais. après le remaniement. Mais le temps, tu sais, ils ont très peu de temps pour le faire. Donc, on va voir s'ils vont être capables d'atteindre leur objectif. Mais c'est sûr que le coulage là, d'affaires, là, puis les, tu sais, je regarde par exemple le journaliste de Radio-Canada, Thomas Gerbet. À tous les jours, il y a des nouvelles sur des sources dans certains ministères, puis notamment celui de l'environnement, là, où est-ce qu'il sort des informations qui lui ont été coulées là, par des sources de fonctionnaires. D'après moi, ça va continuer.
Oui, c'est ça, il va y avoir du coulage. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas contents. On parlera un petit peu plus tard, là, Antonine, avec Lambert Drainville, du fait là, que les deux syndicats principaux là, de la fonction publique, c'est-à-dire celui de la fonction parapublique du Québec et celui des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec, considèrent que ça crée un climat de travail toxique. Mais là, à un moment donné, t'sais, des coupures, il y en a dans le privé, il y en a dans le public. J'ai de la misère un peu avec cet argumentaire-là.
Oui, je comprends. Puis, tu sais, c'est sûr que ça leur fera jamais plaisir. Fait qu'ils font leur travail. Si tu étais un syndicat de la fonction publique, tu n'applaudirais pas qu'il y ait des coupures. Puis c'est bien normal.
Non, c'est clair.
Ils jouent leur rôle.
Exactement, ils jouent leur rôle. Antonine Iaccarini, c'était le caucus Iaccarini du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. Tu restes avec nous à distance de Montréal pour l'entièreté de l'émission. Et après la pause, on va avoir justement l'avocat spécialiste François-David Bernier qui va venir nous parler. On va boucler la boucle de cette situation respect citoyen qui a exploré les possibilités avec Leadership Québec pour que Sam Ahmad se retire de la campagne électorale, donc retire sa candidature à la mairie. On a fait le tour avec des journalistes, on a fait le tour avec le principal intéressé, Stéphane Lachance, on a fait le tour avec des analystes, mais là, pour la première fois sur les ondes de Boulevard 102, on va avoir un avocat, donc ça va bien boucler la boucle sur cette situation-là. Tu vas être à l'écoute, Antonine?
Yes!
Cool! Alors, courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1 et on revient avec l'avocat spécialiste François-David Bernier.
Que tu poursuis à la commande à l'auto et que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Ce que j'aime d'On en jase, c'est que vous connaissez le 418-971-102.1. On a de très, 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 très belles réactions. Fred qui écrit « Ouais! » D'après moi, Frédéric Gay, sous-ministre à l'environnement, ça va être lui. Il va faire partie des coupeurs. Disons que son speech devant 1000 fonctionnaires n'a pas dû plaire du tout, du tout, du tout à la CAQ et au gouvernement Québec. Pour nous écouter également, blvd.fm, c'est la web radio et les meilleurs moments de notre émission se retrouvent à cet endroit également. L'application BLVD 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store et twitch.tv. /BLVD, /FM. Également avec les haut-parleurs intelligents, vous dites « Écoutez BLVD 102.1 » et vous pouvez nous écouter immédiatement. Antonine Iaccarini, tu es toujours au poste?
Toujours là.
Toujours, Antonine, en direct de Montréal aujourd'hui spécialement. Et là, on accueille en studio, il est avocat spécialiste, généraliste, François-David de Bernier. Monsieur Bernier, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Good. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui parce que, comme je le disais d'entrée avant la pause, je disais, bon, bien là, on a fait le tour des politiciens sur la situation respect citoyen qui a entré en discussion avec Leadership Québec pour voir comment Sam Ahmad pourrait retirer sa candidature à la mairie. On a jasé avec des journalistes, on a jasé avec des chroniqueurs, mais il nous manquait pour boucler la boucle un avocat.
Le droit.
Et enfin, vous êtes là. Pour commencer, je fais réécouter aux auditeurs et à vous également ce que Marc Roussin, directeur de campagne pour Respect Citoyen, a dit sur les ondes de Radio-Canada Radio hier en fin de journée.
Alors nous, ce qui était important, c'était de mettre toutes les options sur la table, faire une ultime tentative, puis c'est aussi simple que ça.
Mais si je comprends bien, vous étiez prêt à lui offrir le poste de directeur général de la Ville de Québec, mais ça, c'est en rupture avec les règles électorales, M. Roussin, ça.
On était prêt à offrir n'importe quoi qui est réalisable, qui est faisable, qui est légal. Aussi simple que ça. Alors, name it, en bon français, excusez-moi l'expression.
Mais on l'a vu à Saguenay, donc la mairesse qui a été condamnée pour des propos comme ceux-là. Donc, c'est interdit de faire ça, M. Roussin.
Ben oui et non. C'est interdit parce que la mairesse, elle était sortante, elle était élue, elle était en poste. Nous, ce qu'on tente de faire, c'est une alliance. Alors, présentement, on n'est pas élu. On ne peut pas offrir de job. Ce qu'on peut faire, c'est on peut dire, écoute, dis-moi ce que ça prend Si c'est faisable, je vais m'assurer d'être capable de te le donner, si on est capable. Alors ça, c'est totalement légal. Okay. On n'est pas élu. Alors, comme on n'est pas élu, on ne peut pas offrir.
Monsieur Bernier, je vous pose la question. Est-ce que c'est légal ou illégal l'approche que Respect citoyen a fait?
C'est illégal. On n'a pas besoin d'être
catégorique.
Oui, parce qu'on n'a pas... L'infraction, c'est pas toujours facile à comprendre. C'est du pénal. Hein? Mm-hmm. C'est pas du criminel, c'est du pénal. C'est comme une contravention. Et l'article le dit. Dans le fond, cet article-là existe pour éviter le marchandage de candidatures. T'sais, c'est de...
C'est l'article 590.
590, c'est sur la loi sur les élections municipales et les référendums. Donc, cette loi-là régit tout ce qui est municipal. Et 590, c'est la section où il y a plein d'infractions qui peuvent être commises. Et celle-là, on veut éviter le marchandage de candidatures. Et là, en droit, on regarde les mots. Hein. Les mots sont importants. Mm-hmm. L'infraction dit « quiconque ». Qui compte, ce n'est pas un élu ou une personne ciblée. Ça veut dire n'importe qui. Et dans ce cas-là, c'est des candidats. Et ils ne peuvent pas faire ça. Dans le fond, et c'est important de comprendre que c'est personnellement. Moi, je suis un candidat, je ne peux pas dire à quelqu'un « Retire-toi, je vais te donner un poste. » Dans le fond, l'article le dit, c'est de donner un avantage, donner un emploi, des choses comme ça. Et c'est personnellement et par personne interposée. Donc, on ne peut pas dire, ben moi, je n'ai pas parlé au candidat, c'est mon directeur qui a parlé. C'est l'infraction aussi.
D'accord. Donc, ça veut dire que Respect citoyen qui mentionne, hey, c'est des discussions exploratoires, on a demandé à la gang de Leadership Québec qu'est-ce qui pourrait bien intéresser Sam Ahmad pour qu'il se retire. C'est comme lui offrir directement un poste.
Selon l'article, oui. C'est comme lui offrir le poste. Et là, on va aller dans le droit un petit peu. Je suis là pour
ça. Ben oui, allez-y, on vous écoute.
Et il y a de la jurisprudence qui évidemment, qui est la mairesse de Saguenay. Où est-ce qu'on pouvait lire la décision? Et c'est ça, on analyse, parce qu'on dit, l'article, bon, est-ce que c'est restrictif ou c'est plus général? Là, ce qu'on dit dans cette décision-là, c'est on dit... C'est pas obligé d'être malveillant, tu sais. C'est pas obligé d'être une intention en arrière. Si on dit que c'est des infractions à responsabilité stricte, c'est de le faire et l'infraction. Et là, on analyse, on dit, ouais, mais offrir, il y avait une défense dans ce cas-là, on disait, ben, nous, on offre un poste, mais peut pas exister, ce poste-là.
Ouais, c'est ça. Et bon. On disait, on voulait créer une alliance.
Bien, ça, je vais en venir après à l'alliance.
Parfait.
Dans ça, on dit on offre un poste et le tribunal a dit, c'est à la Cour du Québec dans ce cas-là, a dit c'est de le promettre l'infraction. Il ne faut pas que ça soit nécessairement réalisable, mais non plus, il ne faut pas que ça soit loufoque. Donc, c'est l'infraction qui est prévue à cette loi-là. Et là, évidemment. Des alliances en politique, ça se fait, on peut se joindre. Mais le problème ou le boblet, c'est de dire « retire-toi ». « Retire-toi, je vais te donner quelque chose ». C'est là que la loi interdit. Oui.
En politique, là, provinciale, par exemple, ça s'est déjà vu, il y a une course à la chefferie, par exemple. Et là, un des candidats va avoir une discussion avec un autre candidat puis va dire « regarde, appuie-moi, retire-toi, puis je vais t'embaucher comme conseiller. Puis si c'est un élu, ben je vais te donner le poste de leader parlementaire, par exemple.
Ouais. »
C'est des choses qu'on a déjà entendues. Est-ce que le fait qu'on parle ici d'un poste dans l'administration, tu sais, c'est pas politique là, comme poste, on parle par exemple du poste de directeur général de la ville, est-ce que du point de vue du droit, et de l'illégalité, ça joue un rôle, la nature du poste qui est promis, ou peu importe ce qu'on promet, si on fait des tractations pour que quelqu'un se retire, peu importe la nature du poste, on est dans le tort.
Au municipal, peu importe le poste. À faire très attention, on fait des parallèles, c'est normal, avec la politique provinciale, mais là, on n'est pas là, là. On est dans une loi électorale municipale. Donc, il faut cet article-là, et je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement plus sévère, ce que je peux constater, et c'est tout avantage. Et même, si on va lire la décision de la mairesse de Saguenay, les juges le disent, c'est interprété large. C'est un article qui est assez large. Encore une fois, il y a des écrits, des élus, c'est « on veut éviter le marchandage », dire. Et là, à savoir, au provincial, ce n'est pas la même loi. C'est la loi électorale. Et honnêtement, c'est plus facile au provincial de faire des alliances, se réunir, embarque dans mon équipe, on va continuer. Mais pour ce qui est du provincial, là, je n'ai pas tout le détail pourquoi le législateur, mm-hmm. celui qui écrit les lois, était si sévère pour ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on voulait éviter ça parce que peut-être qu'il y a plus de monde, il y a plus de candidats. Ben, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Moi,
mais plus de
j'irais pas trop en politique.
Mais
là,
peut-être
c'est ça.
Plus de proximité au niveau du municipal. Puis là, les mauvaises langues diront que si c'est plus lousse au niveau du provincial, c'est parce que les libéraux ont géré trop longtemps l'État. Mais ça, c'est les mauvaises langues
qui
disent ça.
C'est qui écrit les lois, là?
Je reviens justement à la situation de respect citoyen. Donc, vous êtes catégorique. C'est illégal,
ben,
il n'avait pas le faire.
Ouais,
ouais. Faire attention.
Ça prend une preuve, là.
Ça prend une preuve, ça, exactement.
Est-ce que monsieur... Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été ouais. promis?
Mais
c'est
dans
sûr
ce que vous avez
mal.
Entendu de M. Roussin, M. Lachance aussi, qui dit oui, on a fait des discussions, on a ouvert notre jeu. Est-ce que pour vous, là, c'est une preuve suffisante à l'heure actuelle?
Ça pourrait, parce qu'on fait des... Tu sais, je fais une entrevue ici, ça peut être des admissions... extrajudiciaire, mm-hmm. en dehors de la cour ou d'un tribunal. Là, c'est sûr que je suis pas dans le dossier, mais en surface, j'irais pas dire « Ah, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est mon directeur, j'ai entendu ça. » Parce
oui, oui.
que l'infraction le dit personnellement ou personne interposée. Mm-hmm. Et d'offrir, comme je dis, c'est large encore une fois, un avantage, un emploi. Et si on admet qu'on voulait lui donner un poste de DG, mm-hmm. bien, comme je dis, c'est une infraction à responsabilité stricte. On n'a pas besoin de prouver toute l'intention. Il faut rien que savoir, est-ce qu'il y a eu promesse?
Ouais.
Oui ou non? Et la promesse n'a pas besoin mm-hmm. d'avoir été tenue. Là. Il y a des cas plus sévères dans le code criminel où est-ce que, exemple, on essaie de faire retirer un maire de son poste.
Ouais.
Là, on tombe dans une autre sphère. Là, ça devient criminel. Là.
Bon, oui.
Et les conséquences peuvent être plus graves.
Donc là, même si c'est Marc Roussin, le directeur de campagne de respect citoyen, qui est à la rencontre, le fait que Stéphane Lachance sait qu'il y a une rencontre et qu'on va discuter de ça, ça le rend, entre guillemets, si... ils sont coupables, ça va le rendre coupable par association.
L'article le dit, par personne interposée. Donc, si on a connaissance de ce qui est fait, puis il est fait par une autre personne,
parfait.
Mais qui a un lien mm-hmm. avec le candidat, oui. dans ce cas-là, là, l'infraction peut être commise. Mais là où ils peuvent se défendre, c'est à savoir c'est quoi la preuve de tout ça.
Mm-hmm.
À la radio, ce que j'ai entendu, c'est assez vague, à moins que je me trompe.
Non,
est-ce que catégoriquement, on a dit... On a offert un poste de DG. Est-ce que...
Non, on a dit, puis je pourrais vous le faire réécouter. Là, voici ce que je vous ai fait écouter Marc Roussin.
Ouais.
Je vous fais réécouter Stéphane Lachance.
Défend, mais ce qu'on a fait, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on a fait. On a discuté, les deux directeurs ont discuté dans une rencontre privée, entre deux hommes, vocalement, il n'y a rien, il n'y a pas eu d'offre écrite, il n'y a eu rien. C'est une rencontre où on a discuté, on a parlé de différents points, puis ça a chopé, on a fermé le livre, puis c'est réglé. Donc, il n'y a rien d'illégal dans tout ça.
C'est jusqu'à présent, là, je vais le dire comme ça, là, le témoignage ou plus la défense de M. Lachance et de M. Roussin.
Ouais, s'il n'y a pas de preuve directe qu'on offre un emploi, comme je n'oubliez pas, offrir,
mm-hmm.
ça ne veut pas dire l'avoir puis que c'est possible. S'il n'y a pas de preuve de tout ça non plus, ça reste... Tu sais, n'oubliez pas que c'est du pénal, c'est pas du criminel.
Oui.
Mais en droit pénal, c'est le même fardeau de preuve qu'en criminel. Vous l'avez tous entendu.
Ben oui.
Hors de tout doute raisonnable.
Exactement.
Donc, il faut quand même faire une preuve
parfait.
Au pénal, hors de tout doute raisonnable, que réellement, il y a eu une offre d'un poste
excellent.
Ou d'un avantage pour que le candidat se
parfait.
Retire.
Mais je reviens au début de la conversation. Explorer la situation et comme offrir un poste. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Sam pour se retirer? Ça ressemble
ben,
à offrir un poste.
Oui, évidemment, c'est qu'est-ce qui lui ferait plaisir. On parle d'avantage.
Ouais.
Pour ça, si c'est dit comme ça... Ce qui lui fait plaisir pour se retirer,
mm-hmm.
peut-être que les éléments de l'infraction pourraient être réunis. Si, là, pour bien comprendre, c'est le DGEQ qui s'occupe
ouais.
de ça.
Exactement.
C'est le poursuivant. Il n'a pas besoin de plainte. Il peut, de son propre chef, faire enquête et déposer, c'est le poursuivant,
mm-hmm.
contre le candidat parfait. Et c'est traité devant un juge de la Cour du Québec.
Est-ce que l'équipe de Sam Ahmad peut être aussi reconnue coupable de s'être assis justement à cette table-là?
Pas de s'être assis. Pas d'écouter, mais d'accepter s'il y avait une preuve
mm-hmm.
qui ont écouté et qui ont dit « Hey, oui, ça m'intéresse ou
ouais.
j'accepterais cette entente. » Là, il y a un autre article un petit peu plus loin, il faut tout en lire en haut et en bas,
oui, oui.
qui dit que lui aussi commettrait une infraction
excellent.
D'accepter. Oubliez pas, on veut éviter le marchandage de candidature. Ouais. C'est de même qu'on résume ça.
Excellente question là, de la part d'un auditeur ou d'une auditrice. Merci infiniment. En conclusion, est-ce que le DGE devrait se pencher immédiatement là-dessus ou il doit attendre la fin de la campagne électorale?
DGE, je pense pas qu'il attend rien. Le DGE se doit, s'il y a des motifs, là, un peu comme dans n'importe quoi, un peu comme le DPCP, ce qu'on veut, là, c'est de la clarté. Mm-hmm. Mais ça se peut qu'il enquête, ça se peut que pas, on le saura pas jusqu'à temps qu'il y ait des conclusions. Mais c'est sûr que pour les élus, c'est pas tout le temps évident. Je finis là-dessus.
Ben oui, allez-y!
Pour les élus, c'est pas toujours évident là, ce qui est légal, ce qui est pas légal. Des fois... Il faut être bien conseillé. C'est pratique d'avoir un avocat pas loin.
Ben oui.
Parce que bien connaître cette loi-là, ben, peut éviter de s'enfarger. T'sais. Mais c'est sûr, il y a la règle, nul ne doit ignorer la loi. Mais j'en conviens que des fois, s'y retrouver, c'est pas tout le temps évident. Mm-hmm. Donc, à suivre si le DGEQ considère ça sérieux pour enquêter. Et comme on l'a vu dans le cas de la mairesse de Saguenay.
C'est ça
qui est maintenant, en passant, ce jugement-là est en appel. Là.
Oui, c'est ça. Donc c'est on verra
si tous ces critères-là vont tenir la route devant trois juges de la cour d'appel.
Excellent. Monsieur Bernier, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Il nous manquait ce côté-là spécialiste juridique dans cette histoire qui en est une importante là, en termes de politique municipale pour cette campagne municipale 2025.
Ça me fait plaisir.
Cool. Merci beaucoup.
Fin de journée.
Hey, merci vous aussi. Bye C'était bye. François-David Bernier. Antonine, qu'est-ce que tu en penses de des commentaires de M. Bernier? Ça place vraiment respect citoyen dans l'eau chaude, même si Stéphane Lachance ne veut pas l'être à l'heure actuelle.
Exact. Quand Stéphane Lachance dit que c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est de l'eau chaude. Là. Honnêtement, moi, c'est venu confirmer la gravité de la situation. Là, évidemment, il faut qu'il y ait une enquête, il va y avoir des éléments de preuve qui vont devoir vraiment prouver, mais dans du pénal comme ça, c'est pas au-dessus de tout doute raisonnable. Hein. Mm-hmm. C'est pas comme du côté criminel. Là. Je suis zéro une spécialiste, là, mais c'est différent. T'as moins le fardeau de la preuve que dans du criminel comme tel. Puis honnêtement, quand je repense, en écoutant Maître Bernier, et je repense à ce que Stéphane Lachance a dit publiquement, je me dis, il y avait de l'aveu. Parce que l'intention ne change rien. C'est qu'il y a certaines infractions où il faut que tu prouves l'intention de l'autre.
Mm-hmm.
Dans ce cas-ci, peu importe c'était quoi ton intention, s'il y a marchandage, peu importe. Si c'est large, là.
Ben oui.
Eh bien, c'est illégal. Donc, vraiment, dans une position qui est particulièrement difficile. Puis, tu as bien fait de poser la question pour M. Hamad. Est-ce que lui aussi est dans le trou?
Ah, puis ça, pas de mérite. Ça vient d'un auditeur ou d'une auditrice par texto 418-971-1021 si vous voulez réagir, d'ailleurs.
Absolument, puis merci pour vos questions, parce que c'est une très bonne question. Et ce qu'on comprend, c'est que non, il est vraiment moins dans le trouble, sa maman, dans cette histoire-là. Politiquement, c'est autre chose, mais légalement comme tel, c'est vraiment M. Lachance là, qui se retrouve dans une situation extrêmement délicate. Puis tu sais, on parlait de Julie Dufour, elle fait appel présentement, c'est pour ça qu'elle peut se présenter. Mais une des conséquences, à part l'amende de 5 000 $, c'est de ne plus pouvoir se présenter aux élections. C'est quand mm-hmm. même quelque chose qui...
Oui, pour une période de 5 ans et ne plus pouvoir voter aussi. Donc, en effet, là, c'est quelque chose de
très... Tu parles de la qualité d'électeur, finalement.
Ben oui, c'est quelque chose de très, très, très important. Antonine, avant qu'on passe à une pause et qu'on ait parlé avec l'ami Lambert Drainville, je veux revenir quelques minutes sur le réseau de transport structurant à Québec, parce que ça fait toujours la manchette, le fameux tramway. Sa maman est arrivée avec son projet de dessert. B+, on a appris cette fin de semaine dans les médias qu'un SRB+ pourrait être financé à 95% par le gouvernement provincial. Donc, ça donne un bel élan à sa maman à ce niveau-là. Oui. Et pas plus tard qu'hier, William Trudel, un entrepreneur très connu à Québec qui bâtit des quartiers exceptionnels, notamment à Fleur-de-Lys, a écrit une lettre ouverte dans les médias pour demander aux candidats, justement, de s'unir autour de projets communs à Québec. Et voici ce qu'il avait à dire par rapport au réseau de transport structurant.
Ça prend un réseau de transport structurant à Québec. Et là, je n'ai pas ni la connaissance ni l'expertise pour vous dire lequel réseau que ça prend, puis si tu le bon tracé, puis si tu le bon moyen, puis ça va-tu marcher l'hiver, ça marchera-tu pas l'hiver? Hey, j'ai aucune idée. Mm-hmm. En toute humilité, là, j'ai pas ces connaissances-là.
Mais tout ce que tu sais, c'est qu'en rajoutant du monde de même en ville, ça va prendre du transport additionnel.
Prenons le même pas de recul qu'on vient de prendre dans le dossier du troisième lien, OK? Là, on est 500 000 dans la ville de Québec, mais grande région métropolitaine de Québec, là, on est 800 000. Mm-hmm. Puis selon de nombreuses statistiques indépendantes, Québec est dans les villes canadiennes, dans le top 3 des villes canadiennes qui va connaître le plus gros essor de population dans la prochaine génération. Nous, on va voir bientôt être 1 million. Puis nous, ici, de notre vivant, là, on va probablement voir qu'on s'en va vers 1,5 million un jour, là. Y a-tu quelqu'un qui pense qu'une région qui est à 800 000 puis qui va doubler dans l'espace d'une génération va pouvoir le faire sans réseau de transport structurant? Prenons même pas de recul qu'on vient de prendre avec les deux ponts qui n'ont une centaine à un côté de l'autre, que c'est pas une bonne idée. C'est-tu une bonne idée de pas avoir de réseau de transport structurant d'une ville qui va doubler? Ben non, c'est pas une bonne idée. Ouais. C'est certain que ça en prend un.
Antonine, c'est très rafraîchissant d'entendre un entrepreneur émérite comme William Trudel dire ça, parce que quand je parle de transport structurant de tramway sur les zones de boulevard 101, des fois, je me bouche les oreilles puis j'ai peur de la réaction des gens. Mais là, c'est rafraîchissant. Avec le nombre de personnes qu'on va avoir dans la région de Québec, on n'aura pas le choix. Là. C'est inévitable.
C'est juste du gros bon sens. Puis j'aime son humilité. Il dit, moi, j'ai pas les compétences pour dire exactement comment, puis la couleur des sièges, puis la forme des rails, puis tout ça. Et les politiciens non plus, souvent, en passant, ils n'ont pas nécessairement cette compétence-là. Mm-hmm. Mais il ne faut pas trop s'en surprendre non plus, Jeff, parce que le milieu des affaires est globalement pro-tramway, et ce, depuis longtemps. La Chambre de commerce...
Oui, 70% dans les sondages faits par la Chambre de commerce, les hommes d'affaires, ben, je dis les hommes d'affaires, les hommes et femmes d'affaires à Québec veulent un tramway, veulent un transport structurant.
Un transport structurant, puis je veux juste te dire, ça ne date pas d'hier. Okay? J'ai sous les yeux, parce que ça m'est revenu en écoutant parler M. Trudel, un article qui date de mai 2007 et qui titrait « Le tramway, la priorité des gens d'affaires de Québec ».
Aïe, aïe, aïe.
Pour sortir du 16e Forum économique de la Chambre de commerce. 2007!
Ben, c'est un peu ça que William Trudel disait. Là. Il disait « On est tellement au ralenti à Québec. Là on peut-tu s'unir pour faire des projets, s'il vous plaît? » Parce qu'il dit « Ça n'a pas de sens », puis il a entièrement raison. Là.
Non, c'est ça. Puis quand j'entends on veut faire une autre élection référendaire sur le tramway, écoute, j'ai des moments de découragement. Puis moi, je partage un peu son positionnement sur est-ce que c'est exactement le bon tracé, puis tout ça. Moi non plus, je me suis pas beaucoup mêlée des détails techniques, du budget et tout ça, mais j'ai ce sentiment qui est partagé par de plus en plus de gens, je pense, et on en a souvent parlé, toi puis moi. Il faut que ça avance.
Oui, il faut que les projets se fassent.
À l'infini.
Exactement, parce qu'on fait du surplace dans le cas d'un projet de transport structurant. Là, tu m'as sorti 2007, mais depuis 2015 qu'on a le réseau express de la capitale qui avait été conçu par les libéraux, la ville de Lévis, la ville de Québec, où il y avait un réseau de transport structurant et un nouveau lien tarif, puis il n'y a rien de ça qui est fait en 10 ans, là, donc ça n'a pas d'allure. En passant, 418-971-101, merci de réagir avec le passage justement là, de François-David Bernier sur nos ondes. Vous êtes quand même assez nombreux à réagir et je dois dire que ça fait changer le vote de quelques-uns là, parmi vous à l'heure actuelle. J'ai challengé Stéphane Lachance là-dessus ce matin parce que Respect citoyen promet d'optimiser le RTC, mais promet pas de réseau de transport structurant par rapport justement à Bruno Marchand où je pourrais mettre Claude Villeneuve et Transition Québec avec Jackie Smith aussi, le tramway, et Sam Hamad avec le SRB+. Alors voici, c'est un résumé justement de notre conversation. C'est un extrait là, qu'on a eu par rapport au réseau de transport structurant.
La première étape, c'est de mettre de l'ordre dans la cabane, on va le dire en bon québécois, là, de mettre de l'ordre dans l'organisation avec une nouvelle philosophie, de faire en sorte que tous les participants sont à la même table, qui sont tous sous la même idéologie, puis qu'on rame tous dans la même direction.
Mais admettons que Stéphane Lachance a deux ou trois mandats à la mairie de Québec. Là. Il arrive-tu avec un transport structurant?
Absolument. Non, non. La première étape, c'est d'optimiser. La deuxième étape, par la suite, c'est de faire appel aux différents consortiums internationaux qui offrent des possibilités. Ça va-tu être un métro léger? Ça va-tu être un monorail? Ça va-tu être, je sais pas. Mais oui, on va le faire. Mais ce qu'on va faire, c'est que les gens, on va les inviter à venir à Québec, faire leur présentation. Le public va être invité à venir voir ces présentations-là. Le but, c'est que les gens soient consultés. Ça, c'est l'ADN de Respect citoyen, la consultation, parce que c'est leur argent. Alors, moi, c'est bête valeur, je ne prendrai pas des décisions pour fouiller dans leur poche sans que j'ai eu leur consentement. Alors, ce qu'on veut faire, c'est, dans un premier temps, c'est optimiser le RTC, puis dans un deuxième temps, par la suite, c'est de dire aux gens vers où on s'en va. C'est sûr, on est à l'aube d'avoir 1 million d'habitants dans la région RMR de Québec. Ça va prendre autre chose, j'en suis convaincu, mais pour l'instant, on pense qu'avec une meilleure organisation du RTC, une meilleure organisation au niveau des services est-ouest, nord-sud, surtout le nord-sud, on pense qu'on est capable de faire mieux, puis de faire en sorte que les gens apprécient ce service-là.
Stéphane Lachance, chef.
C'est un très bel ADN de la part de Respect Citoyen d'aller consulter les gens. Par contre, ben ceux oui. qui votent Respect Citoyen en disant « Hey, avec Respect Citoyen, il n'y en aura jamais de transport structurant », ben sachez que le chef Stéphane Lachance le dit. À mon deuxième mandat, il va falloir j'en fasse un parce qu'il regarde les mêmes statistiques que William ben Trudel, oui. puis il sait bien qu'on va en avoir de besoin. C'est ça, c'est juste que ça vient un petit peu plus tard.
Oui, puis en même temps, il faut que tu le crois sur parole, là, parce que oui. de promettre de quoi dans deux mandats, sérieusement, c'est comme ne pas le promettre nécessairement.
En effet.
Ta position est cohérente, mais tu sais, quand j'entends qu'on peut juste optimiser le réseau du RTC, c'est probablement vrai dans les couronnes, dans plein de secteurs, mais c'est vraiment, là, quand le matin, tu t'en vas sur la colline parlementaire à Québec, là, puis tu vois tous les bus là, empilés les uns par-dessus les autres quasiment, là, tu peux pas en ajouter.
Non, c'est ajouter. C'est impossible. Là. T'es même sur le circuit Métrobus 800-801, je suis parti du RTC en 2016, là, je m'occupais des services Métrobus pendant un certain moment, puis on n'était plus capable d'ajouter de bus, ça servait à rien, ils se ralentissaient trop.
Ben c'est ça. À un moment donné, il y a une limite. Hey, avant de finir sur le tramway, est-ce que tu savais qu'on a déjà eu un tramway à Québec?
Ben oui, je savais ça. J'ai lu dans les archives le Soleil le qui monde, faisait des articles là-dessus.
C'est ça, parce que je riais tantôt, parce qu'on en parle depuis tellement d'années de ce tramway-là que ça en est rendu un running gag. Mais c'est un dossier qu'on peut remonter jusqu'au 19e siècle, cette histoire de tramway-là. On a eu un tramway qui était tiré par des chevaux. Mais après, qui a été électrifié. Donc, on avait du transport électrique à Québec.
Faudra revenir aux bonnes vieilles calèches, Antonine.
Hey, ça serait le fun. On ça irait travailler. Là, je m'en viendrais au studio de boulevard en cheval.
Ben oui!
C'est écologique.
Ben écoute, moi, je me lève le matin et puis je parle à mon lapin. Fait qu'imagine-toi, toi, t'emmenais, tu pourrais parler à ton cheval.
Ah, oh,
ça serait beau.
Super. Je sais pas combien de temps là, de sillerie de chez nous me rendre à la
Ben, je sais pas,
cheval.
Mais zoothérapie.
Pas cette option-là, sur Waze.
La zoothérapie, Antonine. Pas bon, ça compte
de bonne humeur, c'est tout bon pour la santé mentale.
Ouais. Tout le monde serait heureux. Parlant de bonne humeur, il est toujours de bonne humeur, Lambert Drainville, un chroniqueur qu'on adore, donc va être avec nous dans quelques minutes. On va revenir sur Churchill Fall. Lambert veut aussi nous parler de cette fameuse partielle qui s'en vient à Chicoutimi, hein, on le sait. PSPP a raté la nation québécoise à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour aller préparer le terrain là-bas. Donc, il y a des informations privilégiées à nous mentionner là-dessus. Et Antonine, on parlera également, là, moi et toi, là, de la situation à Gaza qui, malgré cette entente historique de paix, ne se règle pas du tout. Le Hamas qui a repris complètement le contrôle du territoire là-bas avec 7000 personnes armées là, qui ont envahi la bande de Gaza hier. Ça te convient?
Ça me va tout à fait.
Excellent. Donc, restez des nôtres. C'est Lambert Drainville qui s'en vient immédiatement après cette courte pause à l'émission d'En Jase sur Boulevard 101.
Les rabais de fin de saison, c'est aussi le moment idéal de réserver votre modèle 2026 en précommande.
Chez Anti-Rouille Métropolitain, c'est l'automne. Protégez votre véhicule contre la rouille dès maintenant. Prenez rendez-vous sur antirouille.com. Anti-Rouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Salut, c'est Marie-Lou. Comme vous le savez sûrement, en ce moment, tout le monde a de l'intérêt pour Chevrolet. C'est entre autres parce qu'il y a 0% d'intérêt sur le financement de tous les modèles 2025 en stock, et ça, même pour les véhicules électriques. Oui, oui, zéro. Alors, si vous cherchez à ne pas payer d'intérêt et que vous avez de l'intérêt pour un nouveau véhicule, vous avez tout intérêt à en profiter pour ne pas payer d'intérêt avec Chevrolet. On se comprend? Au risque de me répéter, si vous avez de l'intérêt pour un véhicule Chevrolet, passez chez votre concessionnaire ou visitez chevrolet.ca. Certaines conditions s'appliquent.
Envie de changer de carrière?
Vos ados hésitent sur leur programme d'études?
Des questions sur le marché du travail?
Ne manquez pas la 31e édition du Salon Carrière Formation de Québec au Centre de Foire Expocité. Explorez, avec près de 150 exposants, toutes les possibilités pour votre avenir professionnel et vos études dans une expérience immersive et interactive.
Venez sans frais. Des opportunités à saisir. Un avenir à construire.
On vous attend du 16 au 18 octobre.
Rendez-vous sur saloncarrièreformation.com.
Le mois de l'habitation profab est en prolongation jusqu'au 31 octobre. Il vous reste donc quelques jours pour profiter de notre plus grande promotion de l'année pour construire votre maison ou votre chalet de rêve. Passez dans l'une de nos succursales pour découvrir nos maisons modèles et rencontrer un conseiller. Détails au profab.ca.
Ben, passerais-tu la scie, mon grand? Question de lâcher ton téléphone.
Ah. Mais est-ce pas un métier, couper des branches aussi proches des fils?
Franchement, je suis capable!
Tailler des branches près des fils électriques pourrait couper court à votre vie. Restez à plus de 3 mètres. Ceci est un message d'Hydro-Québec.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Béarnais, c'est une grande famille de plus de 200 passionnés qui, en prenant grand soin de votre véhicule, prennent d'abord soin de tous ceux qui montent à son bord. Parce que rouler en confiance et en sécurité, c'est juste parfait.
Du 1er octobre au 30 novembre, obtenez une remise postale allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Yokohama sélectionnés. Les pneus Yokohama, un choix incontournable pour la sécurité et la durabilité. Détails et prises de rendez-vous sur desharnais.ca.
Desharnais, c'est juste parfait.
Le système de santé craque. Il manque plus de 2000 médecins de famille au Québec. Les ressources promises n'arrivent pas. Les équipes s'épuisent. On impose des réformes en niant les faits. On négocie à coups de projets de loi. Et les patients sont les premiers à en payer le prix.
Réformer la santé, ça doit se faire avec les médecins de famille, pas contre eux. Nous aussi, on veut que ça change. Un message des médecins de famille du Québec.
T'as pas encore téléchargé l'application Boulevard 102.1 sur ton téléphone? On te juge pas, mais... Gratuit sur App Store et Google Play.
C'est le grand essai routier Kia à votre centre d'inspiration électrique Kia avec jeux gonflables pour vos enfants. Tous nos modèles électriques sont à votre disposition pour des essais. Ici, on ne vend pas de véhicules. On informe et on explique. On vous attend au centre d'inspiration électrique Kia sur Cyril-Duquet.
Réservez deux nuits en chalet du 21 octobre au 18 décembre et Au Chalet en Boiron vous en offre deux de plus. Oui, quatre nuits au prix de deux. Venez vivre l'expérience en pleine nature. Auchaletenboiron.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez à la roulette, au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Tu rêves d'un char neuf? T'es à l'aise de jaser puis t'es tanné des jobs plates? Ben écoute ça. Premium recrute du monde allumé pour la vente sur le terrain. Le salaire, en moyenne, 75 000 $ par année et les meilleurs dépassent 100 000 $. On paie ton essence, une prime de 250 $ juste pour commencer et les assurances médicales ainsi que dentaires sont payées par la compagnie. Embarques-tu dans l'aventure? Appelle-nous 514-615-0390 514-615-0390.
Cet automne, c'est fini les pieds gelés. Céramix vous offre la membrane pour plancher chauffant à partir de 1,79 $ et la porcelaine rectifiée 24 par 24 est à partir de seulement 1,69 $. Mise de côté et entreposage gratuit. Céramix au 430 Saint-Sacrement. Le plus grand magasin Uniqlo de Québec ouvre ses portes aux Galeries de la Capitale ce vendredi 17 octobre. Soyez parmi les premiers arrivés et repartez avec cadeaux et surprises exclusifs. Mode, confort, style pour toute la famille vous attendent. Tous les détails au galerielacapitale.com.
Envie d'un nouveau défi? Climatisation Paquette est présentement à la recherche d'un frigoriste. Joignez une entreprise en pleine croissance avec des opportunités d'avancement. Nous recherchons quelqu'un de motivé et de passionné. ClimatisationPaquette.com.
Climatisation Paquette!
À la clinique dentaire Oros, on prend le temps pour vous. Vous avez déjà pensé aux injections de Botox ou aux services d'implantologie, mais vous n'avez jamais osé? Profitez d'une consultation gratuite et sans engagement avec Dr Doric. Clinique dentaire Oros, le sourire en toute confiance.
En montant dans le nouveau BZ4X chez votre concessionnaire, vous pourriez avoir l'impression que votre VUS a pris de l'avance. Parce que pendant que vous êtes encore en train de vous demander si vous avez oublié quelque chose, le BZ4X est déjà chargé. Tout ça grâce à la recharge programmée. Après, tout ce qui vous reste à faire, c'est de le ramener à la maison. L'événement Repartez en Toyota est en cours. Découvrez nos nouveaux modèles emballants comme le BZ4X et vous comprendrez pourquoi Toyota, ça fait rêver. Visitez achetezmatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Ce segment d'émission présenté par Gérard Bourbeau et fils. Vous n'avez pas encore votre abri Tempo pour l'hiver? On a 12 modèles pleine grandeur en démonstration. GérardBourbeau.com.
Yo, what's up? It's Jacoby from Papa Roach, and you're listening to the best radio in Quebec City, Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1, c'est Marceau, le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour.
Sans oublier les rendez-vous incontournables. Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h45. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Le Caucus avec Antonin Iaccarini à midi.
All right.
Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine.
100% talk! une propriété Leclerc Communication. Le midi, on en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Précisément 13h11, vous réagissez au 418-971-1021 et j'adore vos réactions, que vous soyez pour ou contre le tramway, que vous soyez pour ou contre un réseau de transport structurant. Laissez-nous le savoir. À la météo, je vous le rappelle, c'est une belle journée d'automne. 11 degrés demain, 12 degrés alternance de soleil et nuages et 13 degrés ensoleillés pour vendredi. Puis pour le week-end, on va même toucher un 17 degrés dimanche. N'oubliez pas, Tailgate Boulevard 102.1 au match du Roger contre les Carabins de l'Université de Montréal. Match pour la première position. Antonine, t'es-tu une fille de potin? Tais-toi là, Justin Trudeau qui french Katy Perry sur son bateau, ça t'intéresse-tu? Et je pense qu'Antonine était parti chercher son lunch. Là. Je l'ai pris par surprise. Ouais.
Allô, je suis revenue.
Ouais, t'es-tu une fille de potin? Katy Perry, là, sur son bateau, qui freine Justin Trudeau, t'aimes-tu ça?
Ben, je suis très mitigée parce que, honnêtement, je m'en fous un peu, mais je finis par embarquer dans le potinage en bout de ligne. Mais je pense que si j'étais fan du politicien, ça m'intéresserait plus.
OK.
J'ai l'impression que j'ai un peu de hate parce que c'est juste.
Et toi, Lambert Drainville, t'aimes-tu ça, le potinage?
Oui.
Oui, hein? Oui. Moi, faut que je le dise, j'aime ça. Je m'étais avoué cet été à la barre de l'émission du matin. J'aime ça. Je lis ça. La mère de mes enfants achète toujours le Star System, puis je finissais toujours par passer au travail. Puis là, j'aimais ça. Je suivais les petits potins de nos artistes et tout ça. Mais là, Lambert, tu veux nous présenter un potin d'hier que ça s'est passé dans un coin, un comedy club?
Oui, un comedy club à Québec. J'ai vu ça juste avant qu'on rentre en onde.
Ouais.
Fait que je l'ai envoyé, mais ouais, c'est le ministre de la Culture qui a été pris dans une très, très drôle de situation avec sa membre dans un justement dans un comedy club. Fait que je t'ai envoyé ça.
On écoute ça.
Dans un cocktail au travail, c'est quoi votre travail?
Visiblement, elle n'était pas au courant que Geneviève Guilbeault était l'ex de Mathieu Lacombe. Mais bref, ça donne un moment vraiment humoristique. Donc, Mathieu Lacombe a une nouvelle flamme.
Oui, semble-t-il.
Et qui est-elle? Est-ce qu'on le sait?
Non, j'ai pas fouillé le dossier. Ça demeure dans le registre du personnel. J'essaie toujours d'en parler, mais pas d'aller trop loin parce que ça reste quand même leur vie privée. Là, mais bon.
Oui, c'est ça, exactement. Revenons aux choses sérieuses, Lambert. Churchill Falls, est-ce qu'on est en problématique de voir cette entente historique-là, selon toi, être brisée par Terre-Neuve et le nouveau gouvernement conservateur mené par le nouveau premier ministre là-bas, qui est Tony Weddman?
Oui, ben c'est ça. Tu sais qu'à la POC, elle roule pas pour toi.
Ouais, hein? Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'sais, on parle de la CAQ, puis on critique la CAQ, puis c'est correct, c'est le gouvernement, puis c'est correct qu'on le fasse. Ouais. Mais à chaque fois que François Legault se dit « Bon, là, j'ai réussi », il y a toujours de quoi qui tombe sa tête, ça n'a pas de sens.
On se rappellera, tu sais, Nordvolt, c'était tambour et trompette, ça a tombé à l'eau. Là. L'entente avec Terre-Neuve, bien honnêtement, là, c'est de loin leur meilleur coup dans la dernière année. Puis Dieu sait comment on en a parlé. Là. On en a parlé des moins bons coups, mais ça, c'est de loin leur meilleur coup. L'entente de Churchill Falls, juste pour que les gens nous suivent, là, c'est une entente qui a été signée à la fin des années 60. Ça devait se rendre jusqu'en 2041. Dans le fond, le deal, c'était Hydro-Québec achetait quasiment toute l'électricité à un prix qui était très, très pas cher et prenait les risques au niveau de la construction des infrastructures. Fait que construisait un barrage, les infrastructures, les lignes électriques qui amenaient l'électricité au Québec. C'est Hydro qui prenait le risque. Et donc, pendant plusieurs années, le Québec a profité d'un prix d'achat de l'électricité qui était absolument dérisoire. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, c'est que ça a créé un fort sentiment de ressentiment chez les Terre-Neuviens qui, quand le prix de vente de l'électricité a augmenté après les années 70, 80, mais là, on sentit qu'ils s'étaient fait vraiment rouler dans la farine avec cette entente-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en décembre dernier, le premier ministre a annoncé avec le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador de l'époque, Andrew Fury, qui était un premier ministre libéral, une nouvelle entente de principe pour renouveler cette entente-là. Donc, elle devait se terminer en 2041. La nouvelle version de l'entente s'étend désormais jusqu'en 2075. Et, bon, quelles ont été les concessions des deux côtés? Bien, le Québec va effectivement désormais payer un petit peu plus cher pour l'électricité qu'il achète de Terre-Neuve, et ben, Terre-Neuve, en contrepartie, vont recevoir plus d'argent que ce qu'ils devaient. Encore une fois, il va y avoir des nouvelles infrastructures de construites à Gull Island. C'est Hydro-Québec qui prend le risque associé à la construction d'un barrage électrique pour le construire, parce que Terre-Neuve n'a pas cette expertise-là. Et l'entente ben, permet au Québec, est prolongée, donc permet au Québec d'avoir une stabilité au niveau de l'électricité qu'il reçoit de Terre-Neuve jusqu'en 2075 au lieu de 2041, comme ce qui était l'entente initiale. Et donc, ça a été présenté comme un win-win initial
par
M. Legault.
Mais là, Tom Wakeham, qui est le nouveau premier ministre, lui, de Terre-Neuve, en campagne électorale, a dit qu'il allait faire réviser cette entente-là par des firmes indépendantes. Donc, il vient de se faire élire avec une courte majorité de 21 sièges, mais quand même majoritaire avec cette promesse-là.
Exact. Lui, il a joué un peu sur justement ce ressentiment-là qu'à chaque fois que les Terre-Neuviennes entendent Churchill Falls, il grince des dents. Donc, lui a misé là-dessus. Et c'est ce qu'il a dit, effectivement, après sa victoire d'hier. Il a dit que lui allait soumettre l'entente à une révision indépendante. Et advenant le résultat de cette étude indépendante-là, allait possiblement faire un référendum avec cette question-là. Demander aux Terre-Neuviens, bien, vous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'entente? Donc, c'est ça. L'élément qui nous touche, nous autres, c'est que c'est une entente qui nous avait encore une fois été vendue comme la grosse affaire, comme quelque chose qui était réglé. C'était, comme on le dit depuis le début, une entente de principe. Il restait certains détails à ficeler, les Premières Nations, etc. Et là, elle est un peu dans une zone de flou, cette entente-là, qui est, encore une fois, le bon coup majeur de M. Legault dans la dernière année du gouvernement de la CAQ.
Est-ce que le gouvernement de la CAQ pourrait se rasseoir avec justement le nouveau premier ministre et rouvrir cette entente-là pour voir s'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un nouveau terrain d'entente à la place de passer par un référendum? Tu l'as bien dit, la population là-bas est très aigrie de la première entente.
Oui, bien, ils vont les rencontrer. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont les rencontrer assez rapidement, la nouvelle administration, le nouveau gouvernement là-bas. Mais la vérité, c'est que je pense que cette entente-là, on n'aura même pas besoin de la renégocier parce que elle va tenir. Je pense qu'elle va tenir. Quand tu regardes le portrait général, tu sais, hey, Terre-Neuve et Labrador, là, d'abord, c'est 560 quelques mille personnes. Là. C'est pratiquement la grandeur de Laval, là, pour donner une idée de grandeur.
En effet.
C'est la province la plus endettée au Canada, 20 milliards de dettes.
Aïe, aïe, aïe.
Pour eux, l'entente renouvelée, c'est pas juste un choix, là, tu sais, de est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas. C'est comme.
C'est vital.
C'est vital, exactement. C'est vital parce qu'ils dépendent des centaines de milliards que doit leur permettre de récolter cette entente-là. Et donc, ils n'ont pas les reins assez solides financièrement, autant pour tout ce qui est la gestion de leur province, autant pour simplement s'embarquer dans un gros chantier comme ça en solo. Ils ont besoin d'Hydro-Québec. Dans son discours, le nouveau PM a dit « We will develop Churchill Falls, we will develop Gull Island ». La vérité, c'est quand même bien qu'ils essaieraient de le faire tout seul. La dernière fois qu'ils ont essayé de faire ça, ça a été une catastrophe. Ça a amené la province pratiquement en faillite. Mm-hmm. Et là, ils n'auront pas le choix, dans le fond, d'utiliser l'expertise d'Hydro-Québec. Et là, troisième point, ben, M. Wickham, le nouveau PM, ben, a fait plusieurs promesses durant sa campagne, des centaines de millions de promesses. Et il va devoir les financer. Là. La promesse est déjà
en fait.
Bref, ils ont besoin de cet argent-là. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, ça va tenir. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour le moment. Mais ça reste du moment qu'on parle d'un référendum. C'est là où ça...
Robert, est-ce que du côté du Québec, on est trop... je vais le dire comme ça, là. On est trop sur les dents par rapport aux coupures dans la fonction publique. Parce qu'on a un sous-ministre, Frédéric Gay, sous-ministre à l'Environnement, qui devant 1000 fonctionnaires a parlé contre l'appareil gouvernemental en disant que ça n'avait pas d'allure, les coupures, puis qu'il n'avait pas dormi pendant des nuits avant d'effectuer ces coupures-là. Et là, on a une plainte pour climat toxique à la CNESST du syndicat de la fonction parapublique du Québec et du syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. Donc, Krim, on est 13,5 milliards de déficit, mais on n'est pas capable de faire bouger les choses.
Je ne vais pas avoir de difficulté à dormir de mon côté, Jeff. Je te le dis tout de suite. Là. J'ai travaillé au ministère de la Santé J'ai côtoyé. Tu sais, quand tu travailles au gouvernement, c'est main dans la main avec la fonction publique. Il faut qu'ils soient tes plus grands alliés si tu veux que tes choses avancent comme tu le souhaites et à la vitesse que tu le souhaites. Et visiblement, présentement, c'est très tendu, hein? C'est la moindre des choses. Le sous-ministre de l'Environnement est sorti ce matin, mais il faisait suite. Il y a eu la présidente de la Commission de la fonction publique qui est sortie de la dernière semaine, sous-ministre à la Justice, à l'Emploi, à CNSST, comme tu as dit, la SAAQ aussi. On a appris ça cette semaine. Fait que c'est très tendu entre le gouvernement et la fonction publique dans un moment où le gouvernement veut justement faire avancer ses affaires bien vite. Fait que c'est pas une bonne chose. Mais je reviens au point que je disais que j'ai travaillé au ministère de la Santé avec la fonction publique et tu as des gens absolument fantastiques. Tu sais, t'as des atouts dans les ministères qui sont très, très efficaces. Il faut que tu saches les trouver. Puis si tu y parviens, ils vont vraiment t'aider à faire avancer tes affaires comme il faut. Mais en contrepartie, je vais te le dire, Jeff, là, il y a bien du monde qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font.
Tu sais, pourquoi sont-ils là?
Comment ça se fait qu'ils sont autant pour faire si peu de choses, de si petites choses. Alors moi, là, qu'est-ce que je pense, c'est qu'il y en a du gras à couper dans la fonction publique. Il y en a du gras à couper. Maintenant, est-ce qu'il y a certains endroits où ça va faire plus mal qu'à d'autres? Certainement. Est-ce qu'il va avoir est-ce que ça va se faire ressentir sur certains services? Je pense que oui, malheureusement. Mais est-ce que c'est nécessaire pour, en quelque sorte, pousser la fonction publique dans le cul, si tu me permets l'expression,
oui.
Et les forcer à faire un exercice d'optimisation, de dire, bon, mais là, on a moins de ressources, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que chacun de nos employés est utilisé au maximum de ses capacités? Ça, moi, je pense que c'est super important. Maintenant, au niveau politique, pourquoi ça a été aussi long? Là, ça fait 7 ans qu'ils sont là. Le nombre de fonctionnaires a augmenté de 11 000. Là, on apprenait
on en parlait tout à l'heure avec Antonine, justement.
Ben c'est ça. Mais ben là, pourquoi est-ce que tu sais... Si ça s'était fait graduellement depuis leur élection 2018, par attrition, où on ne renouvelle pas ceux qui quittent pour la retraite, ça aurait été fait de façon progressive, puis ça aurait été probablement plus facile à digérer pour l'appareil public. Là, tu te retrouves dans une situation où tu essaies de faire en un an ce que tu n'as pas réussi à faire en 7. C'est sûr que ça va faire mal. C'est sûr que ça va faire mal. Fait que ça revient encore une fois à... T'as des enjeux de vision et de gestion là, au niveau du gouvernement.
T'as entièrement raison. On termine ta chronique, Lambert Drainville. T'es avec nous à chaque mercredi et vendredi. Mais là, vendredi cette semaine, on refait ça à midi, toi et Farnell Morisset. Le duo de choc, les auditeurs nous ont écrit. C'est 100% votre note à Farnell et Lambert. Fait qu'on se parle cette semaine pour se trouver un sujet. On termine ta chronique avec la partielle dans Chicoutimi. On en parlait la semaine dernière. PSPP qui était à Chicoutimi au lieu d'être à l'Assemblée nationale. Pour cette fameuse annonce de la Constitution québécoise, ça a commencé à brasser au sein des autres partis politiques également?
Oui, c'est ça. Les partis affûtent leur couteau. On voyait ça venir depuis un petit moment, là, depuis que Mme Laforêt a annoncé qu'elle quittait début septembre. Le gouvernement a 6 mois pour déclencher la partielle. Et donc, on essaie de voir quand est-ce que ce serait fait. Évidemment, ils ont grand avantage à déclencher ça le plus rapidement possible pour que leur éventuelle défaite, là, qui se présage très largement, là, on s'attend à une autre victoire du Parti québécois, un 7e député pour eux. Ils ont tout avantage à ce que cette éventuelle défaite-là se fasse le moins collé possible de l'élection pour justement à ce que ça nuise le moins possible à leur reset qu'ils essayent de faire.
Surtout pour les libéraux, Lambert, avec l'arrivée de Pablo Rodriguez?
Ben, moi, je parlais plus pour la CAQ.
Oui, c'est vrai.
C'est eux autres qui vont décider quand est-ce que cette partielle-là va être déclenchée. Et donc, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que là, ils veulent... T'sais, dans le meilleur des mondes, ils l'auraient fait le plus vite possible, comme je te dis. Donc, ils l'auraient fait peut-être maintenant. Là, ils auraient annoncé, on déclenche, on s'en va en campagne, puis on a un vote quelque part en novembre.
Mais en novembre, il y a
les élections municipales.
C'est l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101, précisément 13h39. L'émission tire déjà à sa fin avant d'entrer dans le vif d'un sujet très intéressant qui vous fait toujours réagir, c'est-à-dire l'immigration. Je vous rappelle le numéro 418-971-1021. Tripons un peu sur ce qui s'est passé hier soir à Montréal.
Et Suzuki l'emporte. Hudson avec un pivot. Hudson, une autre feinte. Derrière à Caulfield. Caulfield. Cole Caulfield. L'homme des grandes occasions donne la victoire aux Canadiens.
Antonine, as-tu senti la tête? terre vibrer à Montréal hier quand Cole Caulfield a marqué un but en prolongation?
Hey, je l'ai tout senti vibrer.
Ouais.
Honnêtement, là, tout le monde parlait de ça.
Ah oui?
Je suis partie de ma chambre d'hôtel pour me rendre chez Nouveau hier soir parce que je faisais un débat. Mm-hmm. J'embarque dans mon Uber. C'était la game de hockey, mais à tue-tête. Là. C'est assez rare que les chauffeurs d'Uber mettent des affaires à tue-tête, mais là, je me suis dit, bon, là, je vais m'endurer. Quand je suis arrivée chez Nouveau, ben, il faut que tu saches qu'il y a les studios de RDS qui sont en même place aussi.
Fait okay.
que ça vibrait au rythme du hockey. Puis à une minute qu'on entre en onde, on était à 4-4. C'était égalité.
Et le call l'a mis dedans.
Exactement. Oh, juste là, avant d'entrer en onde, tout le monde était bien excité.
T'as vécu cette frénésie du Canadien, mais sache que t'es de retour à Québec demain, mais le Canadien joue demain soir contre les Prédateurs de Nashville à domicile. Sinon, dans l'actualité, bien, mauvaise nouvelle là, pour les acheteurs de maisons à Québec parce que la valeur d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 16,5% par rapport à la même période l'an dernier. Alors, malheureusement, le prix qui ne cesse de monter maintenant est un bon vieux bungalow. C'est 452 700 $ en moyenne au troisième trimestre de 2025. Il y a Bruno Marchand, justement, qui a fait une sortie par rapport à la situation Respect citoyen Leadership Québec en mentionnant que les tractations entre Stéphane Lachance et Sam Ahmad relèvent du copinage entre de petits amis et il dénonce justement cette situation. Et à suivre aussi, c'est sur Radio-Canada, la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, qui prolonge jusqu'à la fin 2025 les mesures de surveillance et d'accompagnement imposées en octobre 2024 au Centre de services scolaires de Montréal au sujet de l'école de Bedford. Elle mentionne que c'est les accompagnateurs qui jugent avoir besoin de plus de temps d'observation pour s'assurer que la phase d'accompagnement ne soit plus nécessaire et elle les effets escomptés. Justement, parlant de Bedford, Antonine, je veux qu'on parle d'immigration et réagir au 418-971-101 parce qu'il y a trois chroniques que j'ai lues ce matin qui m'ont justement laissé un peu pantois face à l'immigration. La première, c'est Mario Dumont qui écrit « 21 écoles montréalaises comptent dans leur classe plus de 90% d'enfants nés hors Canada. Pour compléter le portrait statistique, 83 écoles accueillent plus de 80% d'élèves nés hors pays. Si on place la barre aux deux tiers des élèves nés hors pays, alors le nombre d'écoles concernées grimpe à 162 et ça, c'est seulement dans la région de Montréal. Alors, en conclusion, il dit « Il faut répartir l'immigration entre les régions, réduire les seuils, ce sont des urgences si on croit que la mission de l'école est toujours l'intégration sociale des personnes immigrantes. » Antonine, ces chiffres-là, bien que j'avais conscience qu'à Montréal, il y avait énormément d'immigration, ces chiffres-là m'ont vraiment étonné.
Ouais, puis et Mario Dumont dit qu'il faut régionaliser l'immigration. Mais ça, ça fait longtemps.
Ben oui, ça fait longtemps que j'en entends. Écoute, j'avais 20 ans, puis je travaillais en collaboration avec le patron de Jonquière, puis on parlait de ça du côté de la région du Saguenay. OK, il faut qu'il y ait plus d'immigrants parce qu'on a des problématiques de main-d'œuvre.
Ça fait plus longtemps que le tramway à Québec, je sais pas, probablement.
Ben écoute, j'avais 20 ans, fait que là, j'ai 45, bientôt 46. Fait que oui, 2000, ça fait plus longtemps. C'est 2007, tu m'as dit tramway.
Ça fait plus longtemps. Donc, l'affaire avec la régionalisation de l'immigration, c'est qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que, bon, il y a une forte concentration d'immigrants qui viennent à Montréal. On parle autour de 75-80% à peu près là, qui se concentrent à Montréal. On considère que ça crée des enjeux d'intégration, des fois aussi de francisation. Quand tu es dans un milieu où tu es entouré de gens qui parlent ta langue plutôt que d'entendre parler français, ben ça fait comme un cercle vicieux. Alors que on imagine la belle histoire de l'immigrant qui arrive en région et qui pas le choix de s'intégrer, puis que les gens sont bien accueillants, puis là, tu apprends le français hyper rapidement, mm-hmm. puis tout ça. La réalité, c'est que, ben il y a des gens qui vont arriver ici, puis qui vont vouloir aller plus dans leur communauté. Des fois aussi, tu vas avoir des points de repère, des personnes que tu connais déjà, des membres de ta famille également. Donc, ça fait toujours boule de neige. Ça attire de plus en plus de monde au même endroit. Puis la métropole, ben, c'est un endroit de toute façon aussi qui est peut-être des fois plus attractif pour les établissements d'enseignement, pour les emplois, etc. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle de ça, de cette régionalisation, mais le problème, c'est que les immigrants, c'est pas des pions. Là. Tu peux pas dire, bon, ben
non,
toi,
c'est
tu vas aller t'installer au Bas-Saint-Laurent, puis là, toi, tu vas aller... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis quand on regarde les seuils d'immigration, on a un nombre général. Mettons, 50 000, c'est nos seuils d'immigration. On peut pas dire, bon, ben ça va être 30 000 à Montréal, puis là, on va en mettre 10 000 dans les... Non, ça ne fonctionne pas comme ça, l'immigration. Donc, quand Mario Dumont arrive avec sa deuxième proposition qui est de baisser les seuils d'immigration, bien, si vous voulez baisser le nombre d'immigrants à Montréal, ça passe par la baisse des seuils d'immigration généraux. Puis ça, c'est sûr que les régions, il y en a plusieurs, des acteurs économiques, notamment des régions, qui se plaignent parce qu'ils disent « Oui, mais nous, là, on a de la place pour accueillir le monde. On a des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, on en voudrait plus. » Mais dans la vraie vie, c'est très difficile de les attacher à une région en particulier, sauf pour les travailleurs étrangers temporaires. Mais c'est de l'immigration qui est temporaire.
Temporaire, clairement, parce qu'un immigrant permanent, justement, va chercher à se regrouper familialement. Tu as tellement raison. Puis en même temps, les paniers de services ne sont pas les mêmes en région. Je fais juste penser, exemple, à des organismes communautaires qui peuvent les accueillir dans des banques alimentaires au départ, les organismes qui vont faire de la francisation, par exemple. Le réseau scolaire non plus n'a pas cette force de frappe-là qu'il peut avoir là, au sein des grandes villes.
Un peu partout au Québec qui ont la crise du logement aussi, hein? C'est pas
oui, c'est vrai.
À Montréal. Mais on voit qu'il y a des initiatives maintenant un peu plus granulaires, c'est-à-dire que, par exemple, pour les travailleurs étrangers temporaires, le fédéral a coupé beaucoup il y a un an, mais le Québec dit, d'ailleurs, c'est un peu, ça rentre un peu en contradiction avec leur message habituel, mais dit, ben nous, on voudrait que vous coupiez à Montréal puis à Laval, mais pas dans le reste du Québec, s'il vous plaît, parce que c'est la seule forme d'immigration aussi qu'on est vraiment capable de régionaliser parce qu'ils sont liés à un employeur en particulier.
En effet.
On voit que il y a une prise de conscience que ce n'est pas la même réalité en région et à Montréal pour l'intégration, la francisation, mais aussi le portrait pour l'emploi.
Mathieu Boc-Côté qui écrit à propos de Régis Labeaume. Il dit « Mon oncle Régis nous a fait la morale dans la presse avec son texte. Non, nous ne haïrons pas les immigrants et les musulmans. » Et pour résumer ses propos, Mathieu Boc-Côté dit « Régis Labeaume accuse ceux qui veulent raffermir la laïcité et ceux qui critiquent les politiques d'immigration délirantes des dernières années de verser dans le racisme et la haine des immigrants. » C'est un discours qu'on entend souvent. T'en penses quoi, toi, Antonine, qui est une spécialiste?
Ben, merci de me donner l'étiquette de spécialiste.
Ben oui, je te considère comme ça.
Merci, j'apprécie. Pour préciser, en passant, j'ai travaillé dans des cabinets, notamment le cabinet de l'immigration. C'est des dossiers que j'ai suivis avec attention. Et moi, je considère que c'est des débats qui sont sains et légitimes. Donc, de discuter ensemble de baisser les seuils d'immigration, de discuter aussi ensemble des enjeux d'intégration qu'on connaît à l'heure actuelle. Tu parlais tantôt dans les nouvelles de l'école Bedford. Tu parlais de la chronique de Mario Dumont qui fait état d'écoles dans lesquelles on a une très, très forte concentration d'immigrants de première génération. Et ça crée des enjeux d'intégration, bien évidemment. Et dire ça, ce n'est pas raciste. Parler de ces enjeux-là, ce n'est pas raciste. Maintenant, il se passe quelque chose à Québec en ce moment. Puis d'ailleurs, ça se passe dans mon quartier, fait que je peux t'en parler.
Ah, ouais, donc.
On a des graffitis vraiment dégueulasses.
Oui, ah oui, dégueulasses sur la promenade. Oui, c'est ça, sur la promenade Samuel de Champlain. Ça n'a pas de sens.
Dehors,
ça.
Les musulmans, des croix gammées, OK, des horreurs absolues. Puis moi, je passe par là à tous les matins et sérieusement, ça me pogne au ventre, ça me met en maudit. Pourquoi je parle de ces graffitis-là, c'est qu'il y a une certaine partie de la population, je pense que Régis Labeaume peut-être en fait partie, qui pense que d'avoir un discours politique sur l'immigration, qui dit qu'on a atteint notre limite d'intégration, notre capacité d'intégration et d'accueil, qui parle d'entrisme religieux dans les écoles, de signes religieux, bon, mais ça, tout ça dans un grand melting pot, ça vient comme décomplexer les gens qui sont racistes. C'est ça, en fait, leur thèse. C'est que si on parle trop de ces affaires-là, on vient dire aux gens, on excite en fait ces gens-là. C'est comme si on faisait en bon français du dog whistle.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
C'est l'expression qui dit qu'on ne dit pas rien de grave, mais on regarde les gens qui disent eux autres des affaires racistes puis on leur fait des petits clins d'œil de côté en disant « je te légitimise dans tes positions de racisme ». Moi, j'ai bien de la misère avec ça, honnêtement. Je n'ai entendu aucun politicien dire quelque chose de raciste.
Non, moi non plus.
Et quand j'entendais Haroun Boisy, le député de QS, ça a fait grand bruit, là, qui était allé dire devant une assemblée de personnes musulmanes et maghrébines, en fait, de venir dire qu'il voyait des politiques racistes à l'Assemblée nationale qui étaient motivées par la haine et la peur de l'autre, des hommes noirs, des autochtones, des musulmans, etc. Ça m'avait hautement choquée parce que c'est objectivement faux. Il n'y a pas de politique ouvertement raciste à l'Assemblée nationale. Il y a du racisme au Québec. Puis regarde, je te parlais des graffitis tantôt.
Ben oui.
Lève le cœur. Il y en a des gens racistes au Québec. Puis il faut leur dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est pas vrai qu'on va arrêter de parler, de faire des débats sur l'immigration puis les défis d'intégration qu'on a en ce moment au Québec. Les demandes d'accommodement aussi, dont on entend parler régulièrement. On a le droit de parler de ces enjeux-là. Il faut le faire avec respect. Il faut le faire avec empathie aussi pour les personnes.
Il faut le faire avec doigté.
Attention au choix des mots.
Exactement. Vois-tu, un auditeur ou une auditrice nous écrit « Charlesbourg dans le haut de Bourg-Royal, mon quartier, justement, accueille beaucoup de personnes immigrantes. Ils s'intègrent entre eux, donc c'est le constat qu'on fait. Les écoles sont maintenant pleines. Le service de garde a même perdu son local. » Donc, on voit quand on parle justement de problématiques de surpopulation dans une école, c'est un très bon exemple, et d'intégration là, qui est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens là, de la même communauté qui est au même endroit.
Dans les écoles, on reçoit beaucoup de témoignages, effectivement, qu'il y a une pression sur nos services publics.
Oui.
Par contre, il faut joindre ça aussi au fait qu'on ne se planifie pas très bien au Québec.
Et crime que non, ça n'a pas de sens. Hein? Là. Ben non, ça n'a pas de sens.
On n'a même pas besoin de l'immigration pour mal...
Écoute, on n'est même pas capable de voir la démographie naturelle poindre à l'horizon. Là.
Écoute,
et Charlesbourg est...
exemple, Jeff.
Vas-y.
Écoute, il y a eu un baby boom en 2005, 2006, 2007 au Québec. Je le sais, j'en faisais partie. Moi, j'ai eu mon fils dans ces années-là. Ils sont tous rendus au cégep. Les infrastructures de cégep, en ce moment, c'est une vraie catastrophe. Hey, ils sont nés en 2005, 2006,
ben,
2007.
C'est ça.
On le savait bien quand est-ce qu'ils iraient au cégep.
Exactement. Mon gars est rentré, mon plus vieux est rentré à maternelle en 2012. À ce moment-là, j'étais capable de te dire que dans 6 ans, ça allait prendre une nouvelle école secondaire parce que les classes de maternelle débordaient. Mais cette école secondaire-là est venue 11 ans plus tard. Donc, tu sais, mon gars, il a le temps de finir son secondaire avant qu'elle arrive. À un moment donné.
Donc, on se planifie mal et en plus, on a eu effectivement une grande vague, notamment de demandeurs d'asile là, dans la région de Montréal. C'est un enjeu. Puis la commission scolaire de Montréal, le centre de services scolaires, pardon, avait dit que ça créait des enjeux de classe qui débordent et tout ça. C'est des réalités objectives. Cela dit, on est capable nous-mêmes de mal organiser nos services publics. Hein.
Clairement. Il nous reste un petit 2 minutes, Antonine, puis je veux t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on devrait être plus large dans la reconnaissance des acquis? C'est Pierre-Olivier Zappa qui parle de ceci en disant que vendredi dernier, Statistique Canada nous apprenait qu'un immigrant sur 3 occupe un emploi sous-qualifié par rapport à ses diplômes, des ingénieurs qui préparent des cafés, des enseignants qui vendent des forfaits cellulaires, des infirmières qui changent carrément de domaine. C'est cliché, mais c'est malheureusement trop souvent la réalité.
Tu sais, ça me touche directement parce que c'est comme ça que ma famille a immigré au Québec.
Ah oui!
En fait, mon premier membre de ma famille qui a immigré ici s'appelait Benoît Yacarny. C'était un enseignant, en fait, un prof d'université. Mais il y a le frère de ma grand-mère qui a immigré, qui s'appelait Fulvio Limongelli, et il était chirurgien. Donc, un médecin spécialiste d'origine italienne qui avait étudié dans des grandes écoles, etc. Et qui voulait... Les Italiens ont beaucoup... fait la diaspora, notamment après la guerre et le passage de Mussolini en Italie. Et il appelait carrément dans les hôpitaux au Québec pour se faire embaucher. Okay? C'était comme ça son système d'immigration. Et il a été effectivement embauché à l'hôpital Jeffrey Hill à Québec. Mm-hmm. Et il a dû recommencer de son internat.
Donc, ça n'a pas de sens.
Il se promenait avec des petits jeunes qui commençaient leur médecine et tout ça. Et il a tout recommencé du début. Il n'y avait aucune de ses compétences ou à peu près qui était reconnue au Québec. Ça, je te parle de ça, c'est des années 60.
Oui, oui.
Ça commence à dater.
Alors qu'on manque de main-d'œuvre spécialisée, là, je regardais infirmière, enseignant, ingénieur. Il pourrait peut-être bien faire.
Des enjeux de reconnaissance. Des diplômes et des acquis. En même temps, la qualité d'enseignement un peu partout dans le monde peut avoir des variations aussi. Mm-hmm. Puis, parallèlement à ça, ce qui est un peu débile avec tout ça, c'est que on a coupé aussi dans les étudiants internationaux qui, eux, obtiennent des diplômes d'ici qu'on va reconnaître. Mais là, on a coupé drastiquement parce qu'il y avait trop, on en avait trop dans toutes les catégories. Fait qu'à un moment donné, il a fallu couper quelque part, puis c'est plus facile de couper dans les étudiants que dans les demandeurs d'asile parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Et là, on a un taux de chômage qui augmente en ce moment. Et quand le taux de chômage augmente, malheureusement, ça touche de manière disproportionnée les personnes immigrantes. Quand il y avait une pénurie de main-d'œuvre, ça donnait aussi une chance à des gens qui ne sont pas toujours les premiers à se faire rappeler par les employeurs de travailler davantage. Je pense aux personnes plus âgées, je pense aussi aux minorités visibles qui, on le sait, là, des fois, peuvent faire face à des biais, des fois inconscients ou conscients, là, de certains employeurs. Et les jeunes, en ce moment aussi, en payent le prix. Mais on voit des taux de chômage qui commencent à être très, très élevés et qui peuvent nous inquiéter aussi, parce que ça aussi, ça fait partie de la capacité d'accueil en immigration. C'est d'être capable de leur donner un emploi à la hauteur de leurs compétences. Puis c'est par le travail et par l'école chez les plus jeunes, mais surtout par le travail, qu'on peut avoir une intégration comme personne immigrante qui est réussie. Puis c'est dans les milieux de travail aussi qu'on améliore notre maîtrise de la langue française. C'est pas notre première langue. Donc, c'est quand même une lumière jaune qui s'allume du côté des taux de chômage.
Antonine Iacarimini, tellement bien dit. On conclut là-dessus. Tu es avec nous demain à Québec?
Yes, on se voit demain en personne.
On se voit demain en personne et ça sera le retour de Pascal Cévin en ondes avec nous à l'émission On en jase. On vous laisse avec le retour de Gravel, Denis Véraud et Audrey arrivent à l'instant même. Merci d'avoir été à l'écoute. À demain, guys. On en jase.